composantes d'escalier et transformation sur mesure aussi offertes. Un nom à retenir.
Limaco.ca.
Cette année, faites confiance aux Cliniques Viva, votre référence en épilation définitive au laser Triton. Ultra efficace, sans douleur pour tout type de couleur de peau et de poils. Profitez d'un rabais jusqu'à 50%. CliniqueViva.com.
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le pit stop avec Denis Gravel, 7h45. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iacarini à midi. Boulevard 102, maintenant 100% parlé en semaine.
Bienvenue à ton émission du midi sur Boulevard 102. C'est-à-dire l'émission On en jase. De midi à 14h du lundi au vendredi avec Jeff Fortin, Pascal CV. Pascal CV qui est de retour. Un gros merci à Mathias Turcotte d'avoir assumé le remplacement dans les trois derniers jours. Il a très bien fait ça. Et là, Mathias Pascal est sur le terrain parce que ça brasse les travaux du tramway à Québec.
Oui, beaucoup de choses. D'abord, bonjour. Merci
bonjour.
À Mathias, effectivement. Compassion, empathie, yes. Et tout le tralala pour ceux qui étaient sur les routes du Québec hier. Je descendis de la Côte-Nord et au lieu de prendre 8 heures...
C'était plus tough.
Vraiment, puis je vous salue. Je pensais aux camionneurs, j'en ai croisé énormément. Je sais qu'ils sont à l'écoute.
Ouais.
C'est des gens qui travaillent fort dans toutes les conditions. Puis hier, ça m'a prouvé encore une fois qu'on a besoin d'eux et qu'ils sont fort patients, mesdames et messieurs.
Yes! 418-971-101 pour communiquer avec nous. BLVD.fm, il y a deux trucs que tu peux faire avec ceci. Premièrement, nous écouter sur la web radio. Et deuxièmement, aller voir les meilleurs moments de nos émissions. Et aller voir, hier, on a interviewé Bernard Drainville, candidat à la chefferie à la CAQ. On l'a trouvé un peu soft. Pascal l'a trouvé soft aussi. Antonine, oui. C'est normal, c'est un début de course. Allez faire votre propre opinion si vous n'avez pas écouté l'entrevue d'hier, si vous n'étiez pas disponible hier à midi. L'application Boulevard, disponible sur App Store, Google Play Store. Donc, c'est à télécharger parce que, comme Pascal CV, si vous êtes en Côte-Nord, hein, vous pouvez écouter Boulevard 102.
Je vous ai écouté. J'essaie de faire mon rattrapage aussi directement sur la route. J'avais
nice.
Le temps, comme on dit.
Et voilà.
Ça fonctionne, tempête.
Twitch.tv, BLVD, barre en bas, FM. C'est pour aller nous voir sur Twitch. Venez nous voir, c'est le retour de Pascal CV, vous étiez en grand nombre dans les derniers jours. Et également, abonnez-vous à notre page YouTube, l'excellent podcast, notamment hier sur les 50 ans de carrière de Pierre Houde se retrouve justement sur notre page YouTube. Et vous avez plein de moments comme ça qui se retrouvent. Est-ce que vous avez trouvé que votre rue était bien déneigée aujourd'hui? Avez-vous trouvé que c'était bien déglacé? Trouvez-vous que la Ville de Québec fait un bon travail? 418-971-101, vous avez le droit de sacrer par texto. Je ne lirai pas vos sacs, mais vous avez le droit si ça vous fait du
défoulez-vous,
bien.
Défoulez-vous, c'est le défouloir.
Défoulez-vous, exactement, c'est bien dit. Le défouloir boulevard au 418-971-101 sur le déneigement. Sinon, Pascal, Jonathan Junior fait une sortie sur le troisième lien parce qu'on en parle. Course à la chefferie à la CAQ, c'est revenu dans l'actualité.
Tout le monde est à Trois-Rivières là, du côté de la CAQ pour les prochaines heures, puis on parle de bien des choses, dont le fameux troisième lien. Hein? Dans la course à la chefferie, à la base, en ce moment, ça se déchire, mais c'est un des événements de toutes les années politiques de la CAQ qui a fait beaucoup bouger les choses, brasser, qui a fait des contents, des mécontents. Et là, on en reparle. Donc, on évoque une fourchette de coûts honnêtement, assez large, là. On parle pas des centaines de dollars de différence. On est dans les milliards.
C'est un 400 milliards de différence. C'est pas grave, il n'y a rien là, ça.
C'est entre 7 et 11 milliards de dollars qu'on estime.
Fait que là, t'es en train de me dire qu'on parle du troisième lien depuis 2018 puis qu'on est encore dans une fourchette de prix qui varie de 4 milliards.
Et c'est toujours le ministre des Transports, Jonathan Julien, qui gère le projet en ce moment. On continue d'avancer là-dedans. Mais c'est quand même, comme je te disais, très, très, très présent dans la course à la chefferie au niveau de la CAQ en ce moment. Donc, il s'est dit à l'écoute de ceux qui se présentent à la chefferie du parti, mais qu'on continue de travailler sur le dit dossier. Il a rappelé que c'est un engagement du parti, donc de la coalition Avenir Québec. Mais Christine Fréchette, qui fait partie de cette course-là, semble un peu moins pressée hein, que Bernard Drainville à mettre en branle le projet de troisième lien. Donc, c'est sûr qu'on va en jaser. Puis d'ici la fin février, contrairement au ministre des Finances, Éric Girard, qui lui envisage plutôt d'attendre la fin de la course à la chefferie avant de déposer le budget. Pour Jonathan Julien, bien, on veut toujours dévoiler un petit peu les tenants du projet d'ici la fin février. Donc, on a un budget cible, on a le tracé final du pont-tunnel, en passant, je vous rappelle, qui relierait Québec à Lévis. Ça, c'est dans l'axe de la raffinerie Jean-Gaulin, qui devrait être présenté dans cette dite fourchette assez large entre 7 et 11 milliards de dollars.
Travaux du tramway, Respect citoyen va faire une conférence de presse à 13h30 parce qu'ils n'ont pas été informés. Ils ont été informés via les médias par l'administration Marchand, puis il y a des méchants travaux, là, Pascal.
Non, méchants travaux, puis ça, c'est prévu pour quand? Ce printemps. Fait que si vous pensez pouvoir vous retourner de bord rapidement, il va falloir mettre la pédale au fond, au gaz, gaz au fond, Mont-Léon, parce que oui, on va travailler là-dessus dès le printemps. Vous le savez, venue du tramway qui est prévu pour 2033. Donc, on avertit tous les citoyens de Québec, de la grande région, qu'il y aura des changements à venir en raison du chantier. Et je veux dire même des chantiers. Dès avril, la Ville de Québec embarque dans une phase, une intensification progressive des chantiers. Donc, on va avoir des impacts, c'est sûr, sur la mobilité des résidents, donc ceux qui vont avoir à prendre la voiture, mais aussi ceux qui se transportent dans certains secteurs, là, mais vont voir la signalisation changer.
Vraiment.
Des fois, ça va devenir un sens unique. Parfois, ça ne passera plus. Il va y avoir des détours. Et tout ça, bien, sera de plus en plus important jusqu'en 2027. Et encore là, ensuite, ben, ça va devenir encore plus important. Quand on parle de changement à venir, plusieurs quartiers qui ne sont pas touchés directement, mais on prévient que les secteurs qui sont situés tout au long du tracé du futur tramway vont avoir des travaux qui vont apparaître là, rapidement. Donc, le secteur Legendre, le chemin des Quatre Bourgeois, boulevard Laurier, René Lévesque, le quartier Saint-Roch, la première avenue, poum! C'est presque un genre de bombardement qui va arriver et qui va affecter particulièrement les interventions aussi de la ville à ce niveau-là, donc des impacts sur les déplacements. Déjà que c'est pas facile.
Non. Conférence de presse de Respect citoyen, 13h30 aujourd'hui. On va présenter les changements au RTC pour cette période de travaux-là demain. Et lundi, je sais que c'est les sociétés de développement commercial qui s'assoient avec la ville pour voir comment, justement, on va compenser les commerçants et surtout comment les gens vont avoir accès à ces commerces. Donc, ça va être à suivre jusqu'à la semaine prochaine au niveau des travaux du tramway. Petite dernière pour la route.
Oui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui sort un petit peu de ce qu'on vient de jaser parce que ben, ça grouille aussi un peu partout. Mais il y a une histoire absolument atroce qui se déroule. Et je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais je te parle et je cite le Journal de Québec d'une belle fille d'un mafieux abattu par erreur. Donc, il y a deux individus qui ont avoué avoir comploté pour tuer son conjoint. Puis finalement, ben, c'est la belle fille qui a été abattue.
Wesh.
Et on avait comploté pour éliminer le fils d'un mafieux notoire. Bon, c'est sûr que là, il y a souvent un petit peu moins de compassion, d'empathie quand on parle de crimes organisés. La chose étant, ça reste des meurtres, ça reste des problématiques sur notre territoire. Surtout quand on vient qu'à jaser encore de s'être trompé de cible. Alors, on a tué l'épouse au lieu de l'homme que l'on ciblait. C'est une fusillade qui est teintée d'amateurisme dans le stationnement du salon de coiffure de la femme en question. Alors, ça amène encore plus de problématiques. Torontois de 32 ans qui a plaidé coupable aujourd'hui à une accusation de complot pour commettre le meurtre d'Anthony Gallo. C'est sûr que ça ne se déroule pas sur notre territoire, mais c'est toujours interrelié. Et c'est une histoire de plus dans ce qui est la guerre de stupéfiants.
On passe au caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini. Anto, comment vas-tu en ce beau mardi?
Demande-moi donc si je suis satisfaite du déneigement.
Ben c'est pour ça que je l'avais demandé aux gens. Puis là, il y a des gens qui ont écrit « Hey, c'était cool hier quand je suis venu brûler patiner sur la patinoire extérieure. Les pistes cyclables étaient déneigées. » Fait que j'ai pu marcher dans la piste cyclable. Toi, comment ça a été le déneigement et surtout le déglaçage ce matin, chère Antonine?
Écoute, mon char est au garage parce que sur la côte à Gignac, à côté de chez moi, ce matin, quand je l'ai descendu, j'ai dérapé et je roulais pas vite, je vous le dis. Là. J'ai dérapé, j'ai percuté la chaîne de trottoir. De chance, il n'y avait pas de piétons. Et ensuite, ma voiture ne fonctionnait plus très bien. Alors, elle est au garage pour les deux prochains jours.
Alors, je vais reprendre les paroles d'Yannick Marceau. Ça veut changer le climat, mais c'est même pas capable de déneiger nos rues.
Oui, puis on nous avait avisé que le déneigement allait changer, là, notamment à l'annonce du dernier budget. Mais honnêtement, les côtes comme la côte à Gignac, comme la plupart des côtes qu'on utilise. T'sais, à Québec, les côtes sont à pic, là, et c'était extrêmement glissant ce matin. Puis je parle pas là, à 6 heures du matin. Mm-hmm. Je suis partie de chez nous, il était 8 heures.
Là, non, que, c'est ça. Donc là, on s'entend qu'on est dans l'heure de pointe. Oui, il y a eu plus de neige jusqu'à présent cette année que l'an passé, mais les dernières statistiques démontraient qu'il y avait 652 plaintes. Ils sont remontés à l'hiver il y a 2 ans. Pour à peu près la même quantité de neige, c'était 604 plaintes. C'est pas normal qu'en 2 ans, on soit pas capable d'améliorer un service qui était déjà difficile.
Oui, puis tu sais, je pense qu'aussi, c'est une question d'adaptation. À un moment donné, on est habitué de conduire dans certaines conditions. On est tous habitués à la conduite hivernale. Là. Moi, c'est pas quelque chose qui me stresse plus qu'il faut. J'ai une bonne voiture, j'avais des pneus neufs, on roule plus prudemment, on est moins brusque. Mais ce matin, j'ai fait un saut, je vais vous dire. Là, c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie. J'ai jamais fait d'accident. Le seul accident que j'ai fait dans ma vie, c'est de casser une voiture dans un stationnement. J'étais jeune. Et puis, c'était même pas ma voiture. C'était pas parce que je roulais vite, j'étais dans un parking. Donc, voilà. Fait que j'ai plus d'auto et merci de m'accueillir via Zoom aujourd'hui. Je me cherche une autre location.
Ça nous fait un énorme plaisir. Antonine, Jean-François Roberge va être en entrevue tout à l'heure avec nous. C'est notamment le ministre de l'Immigration. Il va nous parler de son appui à Christine Fréchette. Ce matin, cependant, sur les ondes d'LCN, il a été interviewé par Alain Laforêt. Et voici ce qu'il a dit. Je te le fais entendre. Et on en parle par la suite.
Parce que j'ai la conviction que Christine, c'est le leadership dont on a besoin en ce moment, est capable de rassembler les gens qui incarnent dans notre parti la prospérité, la fierté, l'efficacité aussi. J'ai eu plusieurs conversations avec elle dans les derniers jours. J'ai senti une ferme intention de défendre notre identité, notre laïcité, notre langue, notre culture, mais aussi de ne pas laisser tomber ce qui est vraiment la coalition, c'est-à-dire une grande équipe qui travaille ensemble. Donc, on n'a pas à choisir là, entre le camp nationaliste puis les économiques. On a une leader qui est capable de nous rassembler autour de ça. Puis c'est vraiment l'ADN de la CAQ. C'est pour ça que je suis vraiment très, très fier ce matin de donner mon appui à Christine. Je pense que les Québécois vont se reconnaître en elle. Ceux qui ne la connaissent pas vont la découvrir.
On n'a pas à choisir entre le camp nationaliste et le camp économique spécial, comme phrase ça, du ministre Roberge?
Oui, il faut se rappeler qu'on s'adresse aux membres hein, ici.
Ouais.
Et que depuis le début de la course, en fait, c'était la pré-course, parce que là, elle est vraiment commencée depuis en fin de semaine maintenant qu'on a nos deux candidats déclarés. En coulisses, on nous parlait beaucoup d'un affrontement entre l'aile rouge et l'aile bleue, entre les identitaires et les moins identitaires, entre les régions, entre Montréal. Ce que fait Jean-François Roberge aujourd'hui, c'est de venir un petit peu flouter la ligne. Là. C'est-à-dire que c'est un excellent coup pour Christine Fréchette d'avoir le ministre de l'Identité. Donc, il a l'immigration, la laïcité et il a également la langue française. Jean-François Roberge, il incarne ces dossiers-là. Et quand il vient nous dire que Christine Fréchette est fermement nationaliste et qu'elle va préserver vraiment ce qu'est la CAQ et l'identité de la CAQ, ça rend un fier service à Christine Fréchette, qui était un peu plus sur la défensive sur cet aspect-là, alors qu'un Bernard Drainville, on s'attendait à ce qu'il ait davantage l'étiquette nationaliste, identitaire et région. Donc, c'est vraiment un appui de taille pour Christine Fréchette. C'est un excellent coup et par conséquent, un coup dur quand même pour Bernard Drainville.
Oui, Bernard Drainville qui est allé chercher 2 autres appuis, dont Luc Provençal, le député de la Beauce. Mais jusqu'à présent, c'est des députés d'arrière-ban qui appuient Bernard Drainville et c'est des ministres qui appuient Christine Fréchette. Est-ce que tu vois là vraiment, autrement dit, on peut cerner vraiment qu'avec ces appuis-là, Christine Fréchette est celle que l'establishment de la CAQ voudrait voir comme chef?
Bien, on avait ce sentiment-là, surtout aussi avec cette nouvelle-là qui était sortie cette semaine, comme quoi Martin Koskinen, le directeur de cabinet de M. Legault, avait avisé Christine Fréchette de la démission à venir de François Legault. Mais il y a quand même une grande variété de députés qui appuient Christine Fréchette. Il y a aussi des députés plus d'arrière-ban, des députés de région. Du côté de Bernard Drainville, on manque un peu de quelques ténors, parce que le seul ministre qui appuie Bernard Drainville, c'est Samuel Poulain. C'est un jeune ministre très, très dynamique qui va beaucoup l'aider dans son organisation. Il est député en Beauce, donc aussi, encore une fois, là, la représentation des régions. Mais quand même, c'est des appuis qui sont, disons, moins des ténors du parti. Puis ça veut pas, je suis pas capable d'y voir vraiment une si grande différence du côté de l'establishment, pas establishment dans ce cas-ci, parce que les appuis de Christine Fréchette sont trop variés. C'est pas, il y a des nouveaux, il y a des plus anciens, il y a de la région, il y a de la ville. Donc, pour l'instant, il y a vraiment du poids du côté des appuis. C'est pas, les votes dans la course à la chefferie des députés ou des ministres valent pas plus cher que les votes des membres. Par contre, ces élus-là viennent vraiment donner de l'eau au moulin, de l'exposition médiatique. Ça devient des petits relayeurs de tes messages dans l'espace public, mais aussi auprès des électeurs dans les circonscriptions, les membres, etc. Donc, c'est sûr que les appuis, c'est important, surtout en début de course. La prochaine étape qu'on va surveiller, c'est le premier sondage qui va sortir. Mm-hmm. Ça aussi, là, si jamais un des deux candidats était très en retard sur l'autre, ça devient plus compliqué des fois de changer la conversation autour de la course à la chefferie.
Oui, Jean-Marc Léger qui en a promis un quand même assez rapidement, donc ça sera à surveiller. Là, j'ai l'impression qu'on devrait avoir ça cette semaine dans les médias de Québécois. Je te fais entendre Simon Jolin Barrette en entrevue justement avec Alain Laforêt sur les ondes d'LCN qui explique pourquoi il n'est pas allé dans la course à la chefferie.
Peu de personnes le savent parce que je suis assez privé sur ma vie personnelle, mais j'ai deux jeunes enfants, puis ma famille a fait énormément de sacrifices au cours des 8 dernières années. Je trouve que présentement, ils ont fait suffisamment de sacrifices. Puis il y a des raisons professionnelles aussi. Quand j'ai été nommé pour ministre pour la première fois à 31 ans, ma fille avait un an et demi. Et durant le deuxième mandat, j'ai eu un garçon qui a désormais 4 ans. Alors, c'est sûr qu'à 4 et 8 ans, ça demande une gymnastique incroyable de la part de la famille. C'était pas le bon moment pour moi, mais ce que je vous dis, c'est à la prochaine fois.
Donc, il veut encore. Puis moi, je vous écoute parler de ça. J'ai rattrapé les caucus lors de mes absences des derniers jours. Simon Jolin Barrette était intéressé, mais clairement, peut-être que la situation actuelle aussi de remplacer François Legault, Antonine, d'avoir des gros bottillons à chausser parce que la CAQ a perdu énormément dans les intentions de sondage, donc dans les intentions de vote aux prochaines élections, énormément d'enjeux. Peut-être qu'il voyait la montagne encore plus grosse que reprendre un parti ou créer un parti habituellement. Je ne sais pas, t'en penses quoi, toi?
Ben oui, c'est comme si on t'offrait là, de te battre pour avoir... Là, je suis dans mes affaires de char aujourd'hui, pour te donner conduire un véhicule, mais c'est sûr qu'il manque une roue, la carrosserie est toute cabossée. Tu sais, c'est pas évident la situation de la CAQ. C'est un beau défi, par contre, et faut pas sous-estimer le pouvoir d'avoir un nouveau chef à la tête d'un parti. Simon Jolin Barrette l'a vraiment considéré y aller, malgré sa famille, parce que à la fin de la journée, ça pèse très lourd dans la balance, mais il l'a quand même considéré, il a mesuré des appuis, il a même reçu des appuis publics. Donc, il n'a pas décidé de ne pas y aller parce qu'il n'y avait pas d'appui ou qu'il ne pensait pas être capable nécessairement de gagner la course à la chefferie. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui étaient majeures. Évidemment, ses enfants, et on le comprend. Mais l'autre chose aussi, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'en octobre prochain, la CAQ est capable soit de remonter assez là, pour rester une force politique importante ou même de gagner l'élection. Et à cette question, Simon Jolin Barrette nous a sorti une citation célèbre de René Lévesque, « À la prochaine fois ».
Oui, mais là, la prochaine fois, il parle de ses enfants, il parle de comment c'était difficile pour le milieu familial. Il s'en va, Simon Jolin Barrette, pour les prochaines élections. Il ne se présentera pas. Il va revenir dans 4 ans.
Écoute, c'est une autre décision. Puis Simon Jolin Barrette, il faut le rappeler, est élu depuis 2014. Là, il a 37 ans. Fait que je vous laisse faire les mathématiques.
Oui, exactement. Il y avait 26
ans. Dans les années de carrière, ben c'est ça. Fait que, tu sais, sur les années de sa vie professionnelle, il y a beaucoup d'années comme élu, ce qui est une expérience extraordinaire, mais peut-être aussi que pour prendre la tête d'un parti éventuellement ou la tête du Québec, il y aurait avantage à aller chercher une autre expérience aussi pour ne pas être seulement qu'un politicien de métier. Fait que ça, c'est une possibilité. Ou, autre option, il se présente à la prochaine élection, la CAQ a un résultat soit plus intéressant, reste député dans l'opposition, et quand tu es dans l'opposition, ben c'est quand même intéressant aussi pour se faire valoir, là, puis être leader parlementaire, par exemple, ou alors prendre le relais d'un chef qui n'aurait pas assez performé pour trouver que c'est légitime de rester à la tête de la formation politique. Et là, ben, t'es celui qui vient un peu recoller les pots cassés. Fait que ça peut être intéressant aussi pour Simon-Jolin Barrette. Bref, il manque pas d'options. Il manque pas de perspectives intéressantes pour lui. Il s'est démarqué pendant les deux mandats de la CAQ. Il a un leg très, très intéressant. Et je pense qu'il ressort de tout ça assez fort. Ça,
il est jeune aussi.
Ben oui, 37 ans, là. Ouais. C'est extrêmement jeune pour avoir accompli tout ce qu'il a fait. Donc, il ne va pas disparaître du jour au lendemain, je pense, notre Simon-Jolin Barrette.
Vous l'aurez entendu sur les ondes de Boulevard 102.1, Jeff Fortin prévoit que Simon-Jolin Barrette ne se présentera pas aux prochaines élections. Hey, c'est une grosse prédiction, hein?
Oui, tu avais prédit aussi qu'elle a gagné la course à la chefferie, mais bon, moi, j'avais dit Geneviève Guilbeault.
Oui, c'est ça. Bon, on est quitte. On est vraiment, vraiment quitte. Et on passe au fédéral. Le secrétaire américain du Trésor, Scott Bessent, a déclaré que Mark Carney s'était excusé de façon agressive à Donald Trump en voulant dire il se sentait tellement mal d'avoir fait de la pépine au président américain. Mais Mark Carney a tenu justement à donner sa version des faits ce matin en entrant au Conseil de ministres à la Chambre des communes. On l'écoute.
But to be absolutely clear, and I said this to the president, I meant what I said in Davos. It was clear. It was a broader set of issues that Canada was the first country to understand the change in U.S. trade policy that he had initiated. And we're responding to that. We're responding positively by building partnerships abroad. We're responding positively by building at home. And we're prepared to respond positively by building that new relationship through CUSMA. He understood that, and it was a good conversation, as I said.
Pour traduire, Mark Carney a dit « J'ai expliqué à Donald Trump que je vais toujours être ouvert à faire de la business avec les Américains, que je suis ouvert à négocier, à signer une nouvelle entente avec les États-Unis, mais que dans le contexte actuel, je n'avais d'autre choix que de me tourner vers d'autres marchés également. » Et il dit que Donald Trump a accepté cette explication. Antonine, qui dit vrai? Moi, ce matin, j'ai dit c'est Mark Carney parce que je crois pas vraiment ce qui sort de bouche de la Maison-Blanche à l'heure actuelle.
Oui, effectivement. Puis il faut comprendre à quoi le président Trump et son entourage répondent en ce moment. Oui, on nous dit qu'on est fâché de l'accord qu'on a passé avec la Chine, mais en fait, il faut se rappeler quand on a annoncé cet accord-là, qui n'est pas un accord de libre-échange, qui est seulement une entente sur certains éléments très sectoriels, la première réaction de Donald Trump, ça n'a pas été d'être fâché. Hein. Ce qu'il a répondu, c'est ben, « grand bien leur face ». Puis si vous pouvez faire une entente avec la Chine, je pense que vous devriez le faire. Mais c'est vraiment le discours à Davos qui a mis le feu aux poudres et qui a fâché M. Trump, qui se sent, je ne sais pas si c'est des vrais sentiments ou pas, mais en tout cas, qui a démontré du mécontentement à la suite de ça et qui a menacé de tarifs de 100% sur les produits canadiens. Moi, je me dis, rendu là, 100%, mais pourquoi pas 1000%?
Tant 10 000%, qu'à ça, pourquoi? Ben oui.
N'importe quoi. Donc, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, tu le disais, qui est allé à Fox et nous dire qu'on s'était foiré finalement, puis que M. Carney faisait un petit peu moins son tof au téléphone qu'il faisait à Davos. Moi, je ne prendrais pas ces paroles-là comme paroles d'évangile du tout, parce que c'est super stratégique d'aller dire que finalement, on s'est écrasé. Puis, pourquoi? Parce que pour M. Carney, ça veut dire un peu perdre l'appui de tout le monde, même à l'interne du pays. Là. Ça vient affaiblir ton adversaire ou ton partenaire, dépendamment comment vous le voyez, parce que les gens qui pensent qu'on devrait faire les toughs avec les Américains, je pense notamment à des gens comme le premier ministre ontarien ou des gens de M. Madame Tout-le-Monde qui pensent qu'il ne faut pas s'écraser devant Trump, vont dire « bon, on s'était foiré encore, on a déjà fait plein de concessions, ça ne nous a rien donné ». Et les autres qui pensent qu'on devrait faire bien, bien, bien attention, ben vont se dire « Tu t'as fait le cow-boy à Davos, tu t'es pensé bon, tu as fait les gros bras, et maintenant, visiblement, tu te rends à l'évidence. » Donc, bref, tu perds tout le monde avec une espèce d'hésitation comme celle-là. Mais bon, moi, je le crois, le premier ministre Carney, quand il dit que l'appel qu'il a passé était conforme à son allocution. Je m'attends pas à ce qu'il envoie promener les Américains au téléphone non plus. Il a dû être quand même, somme toute, poli. Mais de là à reculer, à dire « ben non, on fera pas d'entente avec les autres puissances moyennes, puis on compte vraiment, on veut pas diversifier nos marchés, là, on compte vraiment juste sur les États-Unis ». Bien sûr que non. Là.
Ben non. Pierre Graff, analyste économique, sera avec nous aux alentours de 12h30, 12h35, justement, pour parler de ce dossier. Vous êtes présentement dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Ça se déroule du lundi au jeudi, entre 12h30 et 12h30. Deux fois, on le tue un peu comme quand on a des entrevues comme hier avec Bernard de Rainville. Anto, je fais Juste un petit retour en arrière, parce qu'on a une excellente question d'un auditeur par texto. Puis c'est une rumeur que j'ai entendue énormément. Est-ce que Simon Jolin Barrette pourrait transférer au PQ? Il y a plein d'analystes qui disent « Hey, Simon Jolin Barrette, c'est le prochain ministre de la Justice au PQ. » Moi, j'y crois pas pantoute.
Et il l'a dit « à la prochaine fois ».
Ouais, c'est ça, comme René Lévesque. Moi, j'y crois pas pantoute. Mais... Toi, t'es où?
Non, j'y crois pas. Puis il faut aussi comprendre que Simon Jolin Barrette utilise souvent l'héritage péquiste dans ses communications. Ils ont fait une coupe de bons coups, rendre hommage à Camille Lorrain, notamment le père de la loi 101. Donc, il ne se gêne pas pour presque instrumentaliser le passé du PQ. Mais pour ce qui est du présent PQ, il y a pas mal d'animosité quand même souvent entre Simon Jolin Barrette et le PQ. Moi, je pense pas qu'il va avoir intérêt à joindre le PQ. L'autre élément, c'est que le Parti québécois l'a dit à de nombreuses reprises qu'il ne prendrait pas de caquistes et de transfuges caquistes. Ben, ça, Marcel, on sait toujours pas du côté de QS, mais ça, c'est une autre histoire. Par contre, quelque chose que je veux souligner ici aujourd'hui, parce que le PQ dit on veut pas de transfuge, on veut pas de transfuge. Mais à un moment donné, si tu veux faire un pays, il va falloir que les tests de pureté se calment. Donc, ça veut dire que peut-être que tu veux pas avoir des candidats qui arrivent de la CAQ, mais tu veux certainement avoir des électeurs caquistes qui appuient ton projet. Donc, il va falloir faire attention aussi au message que le PQ envoie, en crachant un peu sur les nationalistes qui arrivent de d'autres horizons politiques. Et dans un référendum, là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un référendum, les gens ne s'en rappellent pas, mais ce n'est pas un parti politique qui porte le camp du oui ou le camp du non. Okay? Donc, c'est une coalition qui porte le camp du oui et c'est une coalition qui porte le camp du non avec du fédéral, avec du provincial, mais aussi avec la société civile. Donc, une fois qu'un référendum est déclenché, si Simon Jolin Barrette, je sais pas moi ce qu'il y a dans son cœur par rapport au pays, Simon Jolin Barrette, mais s'il décide qu'il est dans le camp du oui, il n'a pas besoin de joindre le PQ, il peut décider de travailler pour le oui à sa manière, comme il le souhaite. Bon, là, je ne suis pas en train de vous annoncer qu'il va le faire, là. Je vous dis juste qu'il y a moyen aussi de vivre son nationalisme de manière non partisane.
Surtout, probablement, s'il reste au sein de la CAQ, comme tu l'as dit, comme on le sait, c'est une coalition, la pluralité d'idées et d'idéologies aussi est normalement bienvenue. C'est ce qui a fait en sorte que le parti a pu se former de cette manière-là. C'est tellement et toujours... Dans les premières questions actuellement chez les politiciens, on est vraiment ailleurs qu'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pourquoi c'est aussi important, Antonine, actuellement? Est-ce que c'est encore dans une idée tarifaire, dans une idée où tout est à redécouper dans le monde?
Tu veux dire le fait qu'ils se font demander de se positionner oui. sur la souveraineté?
Oui.
Premièrement, parce que le PQ est premier dans les sondages, ils promettent un référendum dans le premier mandat, et ça met les caquistes quand même dans une position un peu inconfortable. C'est plus simple d'avoir une position tranchée. On en parlait hier avec Jeff qui disait « Moi, je suis autonomiste, fait que c'est plate en tabarouette dans un contexte comme on vit actuellement. » C'est la même chose à la CAQ.
Exactement, mais aujourd'hui, je me sens bien que mon drapeau du Canada corné contre Trump.
Ça varie à tous les jours, j'adore.
C'est ça. Anton, c'est ça, être autonomiste.
Voilà.
C'est ça. On est autonome dans notre choix de pensée. OK, trêve de plaisanterie. Anton, on termine avec un parti politique qu'on n'entend plus pas en tout parler, c'est-à-dire le PLQ. Ouais. Que font-ils? Ouais. Où sont-ils? Que se passe-t-il?
Où vont-ils? Comment se sentent-ils?
Et pourtant, on a tellement suivi Pablo Rodriguez dans la dernière, dans les derniers mois de l'année.
On s'intéresse juste aux affaires qui vont mal. C'est bien connu dans les médias.
La corruption. Donc, mais là, je te fais entendre Charles Milliard parce qu'aujourd'hui, dans les médias, Greg Kelly, le conjoint de Marois Risky, est sorti pour expliquer à quel point ça avait été difficile émotionnellement, individuellement pour lui. Et veut pas, ça remet Marois Risky dans l'actualité. Et sur les ondes d'LCN, ce matin, Charles Milliard a répondu à la question qui lui était adressée, à savoir si Marois Risky allait réintégrer le caucus du PLQ.
Alors moi, je fais mon travail de candidat à la chefferie, donc je rencontre tous les gens qui sont impliqués de près ou de loin au parti. Donc je vais rencontrer Mme Risky, on va avoir une discussion, mais j'ai mentionné aux membres du caucus que je veux que ça soit une décision qu'on prenne ensemble.
Okay.
La politique, il y a des statistiques individuelles, mais ça se joue en équipe. Alors moi, je vais avoir cette discussion-là avec le caucus, donc dépendamment si la course se termine en février ou en mars, j'aurai évidemment une réponse rapidement.
OK. Alors comme je dis...
Ensemble pour un Québec dans le Canada. Savais-tu, j'ai trouvé leur slogan.
Leur slogan.
Pas pire.
Mais ils devraient t'embaucher.
Ouais, exactement. Conférence de presse de Marc Tanguay cet après-midi à 13h45. Le PLQ va tenter de se refaire une place, mais le PLQ a été complètement, à part l'expérience corruption où ils ont fait la manchette, sinon il est complètement effacé. Effacé dans sa première course à la chefferie par les élections fédérales, et là, effacé par la course à la chefferie de la CAQ. Ça va être difficile pour eux de rattraper le PQ.
Oui, puis pour Charles Milliard, bon, il dit là pour l'instant, je suis candidat à la chefferie, mais on s'enligne vers un couronnement au Parti libéral. Puis dans un monde idéal, M. Milliard commencerait déjà à monter un peu la sauce autour de sa personne pour essayer de créer un peu de mouvement, d'élan pour sa formation politique. Et là, avec tout ce qui se passe, ils sont éclipsés. Puis moi, comme chroniqueuse politique là, qui doit soumettre des sujets dans différentes télé-radios, bien, le matin, je me dis, bon, mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du Parti libéral. Il faudrait bien que je trouve une manière aussi de dire où est-ce qu'on en est avec la course à la chefferie. Puis c'est la rentrée parlementaire bientôt à Québec, c'est l'opposition officielle. À chaque fois, mes sujets Parti libéral se font bousculer par un paquet de choses parce qu'au fédéral aussi, évidemment, on a beaucoup de rebondissements sur la scène internationale et ils se retrouvent complètement éclipsés. C'est la semaine des caucus pré-rentrée. Je vous avoue que je ne sais pas de quoi ils parlent, les libéraux, dans leur caucus. Je ne sais toujours pas c'est quoi leur priorité. Ça fait depuis des années qu'on est dans des situations intérimaires. On a eu Marc Tanguay, il a fait un bon travail, mais qui ne pouvait pas prendre des positions très tranchées non plus, surtout après Dominique Anglade, qui avait fait faire un petit virage à gauche à sa formation politique. Ils ne sont pas très confortables. Puis c'est quoi la position du Parti libéral sur un paquet d'enjeux qui touchent les gens? Je ne le sais pas. Et ce qu'ils vont devoir attendre en avril, quand la CAQ va avoir son chef pour commencer à exister, ça commence à être proche de la campagne électorale. Le seul bon côté à ça, c'est que ben, M. Milliard ne s'use pas de manière prématurée. On va dire ça comme ça.
Est-ce que ça se peut qu'il soit en train de discuter peut-être de gestion de crise suite à ce qui pourrait sortir, suite aux enquêtes, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il soit prêt. Il ne va pas falloir être encore une fois comme un chevreuil sur l'autoroute quand l'information va commencer à sortir. Ça peut-tu être ça actuellement qui est discuté?
Oui, ben dans le fond, d'habitude, un caucus pré-sessionnel, donc pré-session parlementaire, on est censé vraiment discuter de comment on va se positionner
sur les enjeux
dans la session parlementaire, sur les enjeux, les projets de loi. Est-ce qu'on va déposer des projets de loi? Ça va être quoi nos trois priorités? Et là, effectivement, on doit parler de est-ce qu'on réintègre Marwatski? On essaie de recoller les pots à l'intérieur. Marc Tanguay, qui est de nouveau chef, mais qui était plus supposé d'être chef, se retrouve à faire ce travail-là. Et là, ce qui m'amène à parler de Marwatski, parce que c'est quand même un beau casse-tête là, pour Marc Tanguay et pour Charles Milliard, parce que, évidemment, ce qui s'est passé avec Mme Risky, ça laisse des traces. La manière dont elle s'y est prise, en fait, on ne sait toujours pas exactement la chaîne des événements non plus. On se doute que ça a un lien avec l'odeur de corruption.
Avec les brownies, les millefeuilles, la pâtisserie.
Mais la séquence exacte et le lien, ouais. Qu'est-ce qu'elle savait, qu'est-ce qu'elle ignorait? Est-ce qu'elle voulait dénoncer une situation? Pourquoi elle n'a pas dénoncé plutôt que de renvoyer simplement la directrice de cabinet? Là, on a l'impression que ça fait 50 ans que c'est arrivé cette affaire-là, mais ça fait seulement quelques mois. Donc, est-ce que tous les députés vont être très à l'aise à ce qu'on réintègre Mme Risky? Et est-ce que Mme Risky, ça lui tente vraiment de réintégrer avant la fin des enquêtes?
Ça me surprendrait beaucoup. Chose certaine, les auditeurs de Boulevard 101 vont être choyés parce que Charles Milliard va être avec nous demain à midi en studio, donc on va pouvoir lui poser toutes nos questions concernant justement les libéraux. Puis il y aura la place sur nos ondes pour reprendre un petit peu de place dans l'actualité.
C'est gentil.
Ça, on est-tu fin de même? Puis on accueille Jean-François Roberge tantôt à 1h qui va nous parler de son appui à Christine Fréchette. Puis on va lui poser des questions sur le PEC. Là. Les deux ténors des chambres de commerce, Marie-Josée Morancier et Frédéric Boisvert, étaient sur nos ondes hier. Puis on dit ça presse la clause grand-père. Donc on va demander qu'est-ce qu'il y en est à Jean-François Roberge. Anto, toujours un bonheur? T'es en congé demain, c'est Victor Henriquez qui te remplace. Et on se reparle juste.
Amusez-vous bien.
Yes.
Bye.
Salut Anto. C'était Antonine Iaccarini, le caucus Iaccarini que vous pouvez entendre sur nos ondes de midi à 12h30 dans l'émission On en jase. Après la pause, Pascal, tu veux nous parler d'une histoire drôle qui se passe avec le Colisée de Québec?
C'est sûr que moi, je la trouve drôle, mais c'est pas drôle. C'est un fait divers. Okay. Là, c'est quand même une introduction par effraction. C'est juste qu'il y a des éléments un peu particuliers qui se sont passés à l'intérieur. Entre autres, le voleur aurait circulé à moto à l'intérieur du Colisée.
Hein?
Ben, tu sais, ça.
Un petit trip de jeunesse.
C'est un peu particulier.
Donc, tu nous parleras de ça. Et on va également parler avec Pierre Graff, analyste économique. Qu'est-ce qui se passe? Mark Carney, vas-tu trop loin? Vas-tu pas trop loin? On est-tu en train de se mettre les Américains à dos? On est-tu à risque au niveau économique? Pierre va nous démêler dans tout cela immédiatement, dans un instant après cette courte pause. À Boulevard 102.1, vous écoutez l'émission On en jase.
On en jase. À Boulevard 102.1.
Émission On en jase, ton émission du midi de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 101 avec Jeff Fortin et Pascal CV. À la météo, bien, je vous ferai pas de cachette, c'est une semaine froide, c'est moins 14 aujourd'hui, moins 24 présentement avec le facteur de refroidissement éolien. Ça sera moins 21 pour cette nuit, moins 13 degrés généralement ensoleillé pour demain et moins 14 ensoleillé pour jeudi, donc une vraie semaine du mois de janvier. Pascal, la juge les a appelés les deux fous en cavale en parlant des deux jeunes qui ont lâchement battu, poignardé puis lancé de la passerelle de la Marina Saint-Roch en avril 2003, une personne itinérante. Et là, il y en a un des deux qui a reçu sa peine aujourd'hui.
On parle de Zachary Jenkins Verrette et son complice Nathan Fréchette. Donc, effectivement, ils ont été qualifiés de deux fous en cavale. Bon, c'est vraiment une histoire sordide qui avait retenu l'attention. On se dit, voyons, comment est-ce que quelqu'un peut décider de s'en prendre à un itinérant qui dort à la Marina de Saint-Roch en plein mois d'avril 2024, quand il fait froid? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en vient là? Bien, clairement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en vient là, c'est qu'on est lâche et qu'on bat lâchement, justement, cette personne en situation d'itinérance. C'est un peu toute l'histoire qui a été racontée par la juge et qui a été tranchée en ce qui concerne un des individus de Québec. 19 ans de pénitencier pour la mort d'un itinérant que son complice et lui ont écopé. Donc, c'est Zachary Jenkins Verrette qui a vu, en fait, sa condamnation aujourd'hui. Il avait déjà plaidé coupable en septembre dernier à des accusations d'homicide involontaire pour la mort de Gilles Gosselin, je veux le nommer quand même, et voie de fait grave, ensuite vol qualifié sur une autre victime prise à partie le même soir. Son complice, Nathan Fréchette, lui aussi avait reconnu sa culpabilité dans l'aventure commune. Il a été condamné à une peine de 13 ans d'emprisonnement. Donc, c'est vraiment une cavale violente, gratuite des deux jeunes hommes. Ils étaient fortement intoxiqués et ils s'en sont pris à un premier itinérant, le premier qu'ils ont vu finalement violemment battu. Et ils l'ont lancé, comme tu l'as dit, dans les eaux froides de la rivière Saint-Charles.
Souhaiter que leur année derrière les barreaux leur permette de se remettre bien en selle mentalement.
Plusieurs disent que ça ne sert à rien. Plusieurs souhaitent s'en débarrasser, mais il y en a un qui a trouvé quoi faire avec le Colisée de Québec. Il faut savoir que la nuit dernière, les policiers de Québec sont intervenus. À 20h50, on a appelé les policiers pour introduction par effraction dans le Colisée de Québec sur le boulevard Wilfrid Hamel. Écoute, si je lis entre les lignes, c'est plutôt quelqu'un qui voulait aller voir à l'intérieur, mais c'est un peu cocasse ce qu'il a décidé de faire parce que, bon, les policiers sont arrivés sur les lieux, on a cherché l'individu, on trouve personne, on a même un maître chien qui fait le tour du Colisée Pepsi. Aucun suspect qui a été arrêté. On n'a rien volé dans le Colisée. Ce qu'on pense, par exemple, c'est que le bris pour l'introduction par effraction, c'était pour circuler à moto à l'intérieur du bâtiment.
Peut-être c'est payé un trip?
Peut-être qu'il serait entré aussi à bord de son véhicule. Il y a plein de choses qu'on est en train de mettre sur la liste des hypothèses, mais ce qu'on pense, c'est que le suspect pourrait peut-être avoir même quitté en moto. C'était vraiment un trip de quelqu'un qui souhaitait entrer dans le Colisée Pepsi après tant d'années où ça ne sert plus à rien.
Exactement. Bon, bien, que le bien lui en fasse et j'espère qu'il a eu du plaisir. Mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne brisez
ça
pas.
Ça reste bris et oui, entrer par effraction.
Exactement. Ça reste criminel, les amis. Ne faites pas de bruit de ce style. Depuis la semaine dernière, on parle, et avec raison, du discours enflammé de Mark Carney à Davos où il a appelé les moyennes puissances à s'unir pour combattre les puissances économiques telles les États-Unis qui, à coup de tarifs, tentent justement de déstabiliser les moyennes puissances. Et pour en parler avec nous de cette semaine folle et surtout des impacts qu'il y a, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, les États-Unis sont sortis pour dire « Haha, Carney s'est excusé », puis Carney sort pour dire « Non, 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 je me suis pas excusé, je garde le cap sur mon discours à Davos ». On a le président directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et analyste économique, Pierre Graff, avec nous en studio. Pierre, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jeff, bonjour Pascal.
Pierre, est-ce que Mark Carney est allé trop vite avec ce discours-là et avec l'entente qu'il a tissée avec la Chine?
Ben, écoute, on voit là, le discours était vraiment extraordinaire là, qu'il a prononcé évidemment à Davos. Puis là, la poussière est retombée. Puis on voit qu'il y a vraiment deux penchants qu'il faut analyser en ce moment. C'est vraiment au niveau diplomatique puis au niveau économique. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce discours-là? Puis il avait été peut-être un peu vite, c'est sûr, parce qu'il a parlé de nouvel ordre mondial. Ça fait beaucoup parler d'ailleurs. Il y a beaucoup de théories qui circulent là-dessus. Ce qu'on a vu en revanche, c'est que, par exemple, on voit que les grands dirigeants de la planète n'ont pas nécessairement la même vision que lui. Ils n'ont pas une vision aussi binaire d'on est passé à un ancien monde, à un nouveau monde, mais peut-être en transition. Trump va quitter dans 3 ans potentiellement aussi. Donc, il faudrait peut-être mettre un peu d'eau dans l'eau de vin. Ursula von der Leyen a dit qu'elle n'avait pas du tout la même vision, justement, des relations internationales et du monde. De l'autre côté, il y a le dirigeant de l'OTAN, donc l'organisation militaire nord-atlantique, qui a dit que l'Europe et le Canada n'avaient pas fait leur job aussi dans les dernières années. Donc, c'est comme s'il y avait peut-être... pas nécessairement la même vision vraiment des dynamiques internationales. Et aujourd'hui, c'est problématique parce que lorsque tu veux justement t'attaquer à la plus grande puissance mondiale, il est peut-être bon quand même de signer des ententes avant peut-être de sortir un grand discours qui pourrait amener justement des représailles puis un marasme économique assez important.
En même temps, je trouve ça tellement intéressant d'entendre la différence entre un positionnement économique et un positionnement politique. Dans ce cas-ci, ça semble extrêmement complexe de jumeler les deux, chose qu'on est capable de faire normalement quand on fait face à quelqu'un qui va de l'avant avec peut-être des valeurs un peu plus occidentales, une vision économique qui a été longtemps partagée, du moins du Canada et des États-Unis. Là, en ce moment, on essaie un peu de se défaire de Donald Trump, mais quand on essaie de le faire, on se fait aussi mitrailler par Donald Trump. Alors, c'est quoi la solution dans ce cas-ci? Parce que finalement, le discours de Mark Carney, c'était de se tenir debout, mais il est un peu attaché malgré tout à Donald Trump. Il ne veut pas paraître faible. C'est complexe.
C'est complexe. Puis en politique, on dit toujours que toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Puis même si Mark Carney a certainement raison sur beaucoup de points, il y a des choses que parfois on doit pas dire. Puis là, ça a créé vraiment des représailles. Alors les Américains ont un peu exagéré en disant que le Canada n'allait pas de l'avant avec leur traité avec la Chine. C'est pas un traité de libre-échange, c'était juste une entente économique pour faire baisser quelques tarifs, même si évidemment ça impactait les États-Unis. Puis aussi l'autre chose, c'est que tant qu'organiser une fronde aussi économique, là, faut aussi voir le temps que ça va prendre pour être capable de créer des résultats pour compenser le fait de se détacher. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir une autonomie stratégique, mais ça ne fonctionne pas vraiment en cas d'interdépendance économique.
Alors, c'est là où tu dis où on est peut-être un peu allé trop vite parce que oui, on avait une entente, du moins discutée, mais le temps de la mettre en place puis de voir les fruits de cette entente-là, c'est beaucoup plus long qu'espéré. Et donc, on allait avoir plus de difficulté à se relever de ça.
Exact. Puis regarde ce qui se passe actuellement. Là. Oui, il y a une volonté de diversifier les marchés, mais diversifier des marchés, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Là. Ça prend beaucoup de temps. On voit que l'Europe a des enjeux. On voit que la Chine aussi...
On est en train d'établir le macro de tout ça. Là, mais on n'est pas encore rendu dans l'opération. Là.
C'est ça. Mais de notre côté, il y a des efforts aussi pour être capable éventuellement aussi de développer de nouvelles industries. Mais il y a un concept en économie qui est la réallocation des ressources. Lorsqu'on n'investit plus dans les choses pour lesquelles on investissait historiquement pour créer de la productivité marginale, pour créer de la croissance, et qu'on réalloue ces sommes-là, ces investissements dans une part de l'économie, à court terme, ça va booster l'économie parce qu'on est capable justement de faire fonctionner des fournisseurs, des services, etc. Le problème, c'est que ces industries-là, elles n'ont pas encore de clients. Et aussi, elles n'ont pas encore rien produit. Donc, si jamais tu n'arrives pas à compenser la perte d'un bord avec un gain suffisant de l'autre bord, tu peux avoir vraiment un problème. Puis je rappelle quand même, parce que c'est la statistique la plus importante, 3/4 de nos exportations vont aux États-Unis, d'accord?
Mm-hmm.
Et il faut penser que c'est 30% de notre économie, les exportations. Donc là, si tu fais un calcul rapide, là, ça veut dire qu'on perd à peu près 25% de notre économie si jamais on devait vraiment avoir des tarifs à 100% avec la renégociation de la CEOM. Puis ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on a l'impression qu'avec certaines prises de position, peut-être on s'est un peu affaibli par rapport justement aux renégociations qui s'en viennent pour l'accord Canada-États-Unis-Mexique.
On parle avec Pierre Graff, qui est analyste économique. On parle justement de cette dernière semaine folle en économie. Discours de Mark Carney à Davos, menace de 100% de tarifs de la part de Donald Trump. Pierre, quel pan de l'économie va souffrir, peu importe ce qui arrive, peu importe la renégociation de l'ACEUM? Je pense au bois d'œuvre. Est-ce que le bois d'œuvre est une industrie qui, malheureusement, va souffrir coûte que coûte de ce qui se passe avec les États-Unis?
C'est sûr, puis c'est déjà le cas. Là. Actuellement, il y a beaucoup de licenciements dans le domaine. J'ai eu la chance d'échanger avec deux dirigeants, justement, de Forestière récemment. Puis c'est vraiment une période extrêmement difficile. Alors, c'est sûr que, puis c'est pas un mauvais jeu de mots, là, mais c'est vraiment une industrie en dents de scie, là, l'industrie forestière.
En effet.
Ouais. C'est des hauts, c'est des bas qui peuvent être très bas. Puis en ce moment, ça fait extrêmement mal. Donc, c'est sûr qu'on l'a vu. D'ailleurs, il y a des moulins qui ferment, il y a des scieries qui ferment. Puis ça, c'est vraiment, vraiment problématique parce que c'est des très bonnes jobs en région. Puis malheureusement, si on n'arrive pas à se débarrasser des tarifs dans la renégociation de la CEUM prochainement, ça va être extrêmement problématique. Puis on le voit d'ailleurs aussi dans l'acier, il y a quand même certains enjeux aussi en ce moment. Donc il faudra espérer. Je ne sais pas si Mark Carney, en fait, espère que les marchés, en fait, corrigent les positions de Trump parce que historiquement, il a plus réagi lorsque le marché tombait qu'autre chose. Mais c'est sûr qu'il va falloir une entente parce qu'on est en train de détruire des pans d'activité, des secteurs d'activité avec ces tarifs-là.
Dans lesquels on était connus aussi, puis dans lesquels surtout on avait une expertise, puis que ça amenait énormément d'argent dans les coffres canadiens. Mais il y a des gens qui disaient au départ, ben ça nous touche pas énormément. Là, de ce qu'on comprend, c'est que plus le temps passe, plus ça nous touche, plus ça nous affecte, plus ça crée des problématiques. Il y a des entrepreneurs qui nous ont confié, pas de façon publique, on ne peut pas nommer les industries, on ne peut pas nommer les entreprises, avoir même choisi de rester au Canada, de ne pas avoir construit une usine aux États-Unis il y a quelques années et avoir regretté leur choix. Parce que l'imposition de tarifs comme ceux-là les a complètement anéantis dans les derniers mois ou encore ont fait beaucoup bouger leurs chiffres. Tandis que s'il y avait encore une usine aux États-Unis ou s'il y avait choisi d'avoir une usine aux États-Unis dans les dernières années, il n'y aurait pas eu cet impact-là économique. Ça peut-tu changer dans la tête de nos entrepreneurs leur façon de voir les choses, même s'ils veulent être bons Canadiens?
Ça a déjà changé. Depuis quelques semaines, on voit énormément de cas d'entrepreneurs qui ont décidé d'ouvrir une usine aux États-Unis, d'investir là-bas. Puis les raisons sont simples. Oui, il y a les tarifs. C'est sûr, ça fait très mal. Mais deuxièmement, les Américains, le One Big Beautiful Bill Act fait que le taux d'imposition des entreprises a chuté drastiquement avec Trump. Donc, c'est beaucoup plus avantageux pour l'entreprise de dégager des bénéfices puis de les réinvestir aux États-Unis en ce moment. Puis, il faut penser que, alors oui, on n'est pas concurrentiel en termes fiscaux en ce moment au Canada, même si on a essayé dans le dernier budget fédéral, dans la dernière mise à jour économique, de faire quelque chose avec le nouveau programme d'amortissement accéléré. Par contre, ce qui se passe, c'est aussi qu'il y a eu beaucoup de politiques intérieures au Canada, au Québec, qui ajoutaient à l'imprévisibilité au lieu d'ajouter de la prévisibilité. Parce que ce qui compte pour les entrepreneurs, c'est d'avoir une vision claire, le plus clair possible pour prendre des décisions stratégiques. Puis les décisions stratégiques sont liées à de l'investissement. Et ça fait que malheureusement, comme il y avait moins de prévisibilité, ben, soit ils ont choisi d'aller aux États-Unis, puis on le voit qu'il y en a de plus en plus, soit ils ont décidé peut-être de ralentir, puis l'investissement d'ailleurs a chuté de plus de 3% l'année passée au Canada.
En terminant, est-ce que le fait que Donald Trump a imposé des tarifs et que sur le 200 milliards de dollars qu'il a récupéré que ces tarifs-là, seulement 200 millions proviennent de l'extérieur, donc 1,8 milliard, c'est payé par les citoyens, les entreprises américaines, peuvent le faire reculer, peuvent nous donner un levier dans les négociations?
Malheureusement, je ne pense pas que Trump ait tant de raisons. Il est persuadé que les tarifs sont la meilleure chose au monde. Puis d'ailleurs, c'est complètement fou parce que c'est effectivement les Américains qui payent les tarifs.
Oui. Donc l'inflation augmente là-bas, la création d'emplois est très faible.
Exactement. Puis il y a le fameux phénomène dont je parle, le front-loading, qui fait que les Américains ont acheté énormément de stock au Canada avant les tarifs pour être capables de produire en masse pendant 9 mois. Puis là, ils arrivent à la fin de leur stock. Ce qui fait que les Américains se retrouvent avec maintenant des produits à payer avec le 40-50% de douane, parfois comme on le voit dans l'acier, l'aluminium et le bois. Et parfois, ce qui évidemment augmente le coût exponentiellement. Mais en plus, comme ils ont produit beaucoup en avance puis que les perspectives sont peut-être moins bonnes aussi, dans ce temps-là, peut-être qu'ils coupent dans les emplois. Puis on voit d'ailleurs que les job reports qui sortent tous les mois, lorsqu'il n'y a pas de shutdown aux États-Unis, puis il y en aura cette semaine qui arrive, malheureusement, on voit que l'emploi ralentit et malheureusement, ils sont toujours en dessous des prévisions. Donc, c'est vraiment en ce moment que les tarifs commencent à faire mal à Trump. Mais il ne va pas changer d'avis. Là. Ce qui vient de sortir comme tweet, là, il y a peut-être une heure sur l'Inde et l'Union européenne, l'accord commercial qui vient d'être signé, c'est lunaire. Là, enfin, il les traite de bébé lala. Ouais. Puis Donc, malheureusement, je pense qu'il ne changera pas. En revanche, c'est un peu toujours le même modus operandi. Puis, comme je l'ai dit, les marchés finissent par lui faire entendre raison. Alors, on va espérer qu'il ne nous amène pas dans une nouvelle crise financière mondiale, mais c'est pas fort.
Pierre Graff, merci beaucoup de nous éclairer parce qu'on a d'un côté les Américains qui disent quelque chose, de l'autre côté le Canada. Ça nous prend justement des analystes en plein centre comme toi pour nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup Pierre Graff, analyste économique. Dans un instant, Boulevard 101, l'émission On en jase, Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, qui a donné son appui à Christine Fréchette ce matin, sera avec nous via téléphone. Vous avez des questions pour le ministre de l'Immigration? 418-971-1021. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
On en jase, ton émission du midi, de midi à 14h avec Jeff Fortin, Pascal CV. Rendu à cette heure-là, 13h03, des fois tu vas quitter la voiture pour retourner au bureau, t'es allé te chercher un petit lunch au service à l'auto, viens télécharge l'application Boulevard 101 sur les App Store et Google Play Store, ça va te permettre de nous écouter même rendu au bureau. Ou sur notre web radio, blvd.fm, se retrouvent également les meilleurs moments. La prochaine entrevue va se retrouver justement dans nos meilleurs moments. En cachette, tu veux voir notre petite bête à ton bureau? Ben twitch.tv, /blvd, /fm. Ou si jamais tu es en télétravail, un petit haut-parleur intelligent, écoutez BLVD. Et c'est fait, tu nous entends. Autre que par ta radio hertzienne. 418-971-101 pour réagir. On a un invité de marque pour la prochaine dizaine de minutes, c'est-à-dire le ministre de l'Immigration au niveau de la Coalition Avenir Québec, Jean-François Roberge, qui a donné son appui à Christine Fréchette dans la course à la chefferie ce matin. Monsieur Roberge, merci beaucoup pour votre disponibilité en plein caucus de la CAQ à Trois-Rivières.
Ça me fait plaisir. Là. J'ai quitté le dîner avec le caucus, l'équipe, pour aller avec vous autres, mais comme on dit, la course à la chefferie de la CAQ, on en jase. Fait que je suis content d'être avec vous autres pour en jaser.
Pourquoi vous avez quitté? Parce qu'habituellement, les politiciens nous disent non quand ils sont occupés. Quel avantage ça vous donne aujourd'hui, M. Roberge?
Mais honnêtement, on avait 1h30 de dîner. Là.
C'était trop long, c'était plate. Ça vous donne de l'air.
Mais à un moment donné, ça me prenait une excuse.
Ben, c'est ça. Vous avez bien fait d'accorder un petit 10 minutes à l'émission On en jase. Ça va être plus divertissant là, que vos collègues que vous entendez depuis ce matin. Là.
Peut-être. Je vous écoute.
Monsieur Robert, j'avais donné votre appui à Christine Fréchette ce matin dans la course à la chefferie au détriment de Bernard Drainville. Pourquoi appuyer Christine Fréchette?
Je vous dirais que ça a été le fruit d'une bonne réflexion. Christine Fréchette, ça fait longtemps que je la connais. Je travaille avec elle, évidemment, depuis 2022, depuis la dernière élection. Mais Christine et moi, on s'est rencontrés professionnellement dans la vingtaine, alors qu'on était même dans les associations étudiantes ensemble. Donc, on se recroisait de temps en temps. Et ben là, dans la dernière semaine, j'ai eu plusieurs conversations avec elle, approfondies. Je voulais voir là, comment elle voyait l'avenir, qu'est-ce qu'elle envisageait pour la Coalition Avenir Québec. Puis honnêtement, je l'ai senti pleinement investi à faire avancer les idées de la Coalition Avenir Québec. J'ai pas senti qu'elle essayait de me vendre soit la volet économique ou soit le volet identitaire. J'ai senti qu'elle réellement elle incarnait ce qu'est la CAQ, c'est-à-dire justement là fierté, donc on défend notre identité, prospérité, c'est-à-dire que bien sûr qu'on favorise le développement économique, efficacité, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'être au centre droit puis de faire ce qu'on a à faire. Elle incarne ça dans sa manière de parler. À un moment donné, j'ai raccroché avec d'un de mes appels. Puis je me suis dit moi-même, bon, c'est clair, c'est notre prochaine chef, puis je dois l'appuyer.
Donc, vous êtes sûr d'appuyer Mme Fréchette. Si, advenant le cas, c'est M. Drainville qui remporte, vous allez reconnaître assurément sa position en tant que leader du parti. Est-ce que ça se déchire un peu à l'interne ou ça se passe somme toute assez bien? Parce qu'on sait, là, c'est quand même quelque chose qui peut diviser une course à la chefferie.
Je précise que évidemment que je veux me rallier au choix des militants.
C'est pour ça que je l'ai nommé, pour ne pas prendre de votre temps.
Je le précise, là, vous l'avez dit, vous avez raison, mais je veux le répéter moi-même. Là. Oui, j'appuie Christine Fréchette, mais je c'est pas contre Bernard Drainville, avec qui j'ai eu plusieurs conversations, puis avec qui j'ai eu beaucoup d'atomes crochus. Si les militants choisissent Bernard Drainville, on va y aller avec Bernard. Et je vous dirais que c'est beaucoup l'ambiance en ce moment. On est content d'avoir ces deux candidats-là. On est content d'avoir l'occasion de brasser des idées avec une course à la chefferie. C'est sûr qu'ils vont se distinguer. À certains égards, évidemment, il y a des points de convergence. On est dans la même famille politique, c'est sûr. Mais il va avoir un brassage d'idées. Ça va nous permettre de nous renouveler. Puis je pense que les Québécois sont dus pour un brassage d'idées. Pas avoir peur de remettre des choses en question. Ça va être positif. Ça va être positif. Convaincu de ça.
Est-ce qu'il y a une aile rouge et une aile bleue au sein de la CAQ? Parce qu'on a beaucoup. Ouais, ben on a beaucoup parlé de ça dans les médias en disant ah, Christine Fréchette représente l'aile rouge, Bernard Drainville représente l'aile bleue et peut-être à tort ou à raison, on vous associe à l'aile bleue, l'aile un peu plus nationaliste / souverainiste. Est-ce que ça existe vraiment, ces deux ailes-là au sein de la CAQ?
Pas vraiment. Ça, c'est une affaire d'analyste, de commentateur. Puis, les gens aiment se mettre les gens dans des petites cases, dans des petites boîtes. Oui, je suis nationaliste, certain. Je suis ministre de la langue française, puis je suis tellement fier de ça. Je m'occupe de la laïcité. Là. J'ai un projet de loi pour renforcer les principes de la laïcité. Puis je suis très content de ça. Puis oui, je défends notre identité avec l'immigration, mais je ne suis pas que ça. Je me suis occupé de l'éducation pendant 4 ans, de l'enseignement supérieur pendant presque 2 ans. Avant de m'impliquer en politique aussi, j'avais été dans des organismes, je défendais les principes des saines finances publiques, de la lutte au déficit. Donc, oui, je suis nationaliste, mais de dire « Ah, donc je me soucie pas de l'économie parce que je veux défendre la nation », puis d'opposer ces deux choses-là, je dirais c'est plus quelque chose là qui aime les gens, qui ça permet de remplir du temps d'antenne et de faire bien des chroniques là, mais dans la vraie vie, on peut être les deux là.
On aime ça les petites chicanes comme ça, chroniqueurs.
C'est correct, parle pas de Georges.
Ça fait quelques années que vous êtes dans des postes ministériels, c'est des postes souvent assez convoités là, la CAQ s'effrite là, on peut pas dire le contraire, personne pourrait non plus le dire sans qu'on ne pense pas qu'on manque d'honnêteté à ce niveau-là. Donc il y aura défi de rassembler, il y aura un défi aussi de trouver les bonnes têtes aux bons endroits. Vous êtes encore dans un poste ministériel. Aux prochaines élections, vous souhaitez y rester?
Bien, je veux d'abord être candidat. Moi, c'est sûr, je vais être candidat dans mon comté, Chambly, que je représente depuis 2014.
Assurément.
Donc, il faut d'abord représenter les citoyens. Avant d'être ministre de quoi que ce soit, on est député d'abord et avant tout. Je l'ai été 4 ans dans l'opposition, puis c'était pas une honte, c'était une fierté pour moi. Puis après ça, on verra ce que les gens disent. Est-ce qu'ils m'élisent dans Chambly? Est-ce que je fais partie d'une formation qui est au gouvernement? Moi, je pense que ça se peut. Je pense que les Québécois tendent l'oreille en ce moment. Ils avaient arrêté de nous écouter. C'est le diagnostic qu'a fait notre premier ministre. Il a dit, ouais, là, comme un référendum pour ou contre François Legault, il y a une usure du pouvoir. Il a décidé de se retirer. Humainement, j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai compris son cheminement. Et maintenant, je pense que ça ouvre la porte à un renouvellement pour la coalition Avenir Québec. Pas juste changer de chef, mais brasser des idées.
Okay.
Est-ce que le défi est là? Absolument. Mais je n'ai jamais reculé devant un défi.
OK. Alors, je vais changer mes questions parce que je vois très bien que vous n'allez pas répondre à ça. Si je vous posais 2 questions bien précises. La première, on a besoin de quoi au sein de la CAQ en ce moment? Des entrepreneurs, des gens issus de la politique, des nobody qui n'ont pas nécessairement de notoriété, mais qui s'en viennent? Point d'interrogation. Et ma deuxième question à ce niveau-là, est-ce que ça va prendre probablement 4 ans avant de redresser la CAQ telle qu'on l'a connue auparavant?
Bien, à votre première question, on a besoin de quoi? On a besoin de se renouveler. Donc, et c'est ce qu'on fait. Il y a plusieurs personnes, même des ministres, qui ont déjà dit qu'ils ne seraient pas candidats à la prochaine campagne électorale, des députés aussi. Donc, forcément qu'il va y avoir un renouvellement, puis qu'il va y avoir des nouveaux candidats, des nouveaux députés qui arrivent d'un peu partout. À la CAQ, on a des gens qui sont députés, qui sont ministres, qui sont des entrepreneurs, des gens de toutes les régions. Moi, je suis enseignant, des gens qui arrivent du milieu de la santé, des gens de partout, puis je crois qu'on va se renouveler encore avec des gens de partout. Après ça, votre question, c'est est-ce qu'on va falloir qu'on aille se renouveler dans l'opposition? Bien, je pense que non, mais c'est les électeurs qui vont décider, mais je pense que non. Je pense que cet hiver, ce printemps, avec la course à la chefferie, on va faire les remises en question qu'on doit faire. On va brasser les idées, on va changer de chef, on va garder notre ADN. Puis, je pense que les Québécois vont nous faire confiance à nouveau. Je ne peux pas en être certain à 100%, mais j'y crois.
Pour rappel, on parle avec Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration pour la Coalition Avenir Québec. Monsieur Roberge, je mets votre chapeau de ministre de l'Immigration. La Ville de Montréal, le secteur économique, j'avais notamment Marie-Josée Morancy, Frédéric Boisvert, les PDG des deux chambres de commerce de Lévis et de Québec en entrevue hier, réclament une clause grand-père sur le PEC. Est-ce que vous allez accepter d'émettre une clause grand-père sur les immigrants, justement, qui sont ici via le PEC et qui sont bien établis?
Bon. Réponse rapide à leur demande, non. C'est-à-dire que je ne vais pas rétablir le PEC, qui est un programme qui est fermé, pour lequel on ne fait que traiter les dossiers qui ont déjà été soumis.
Mm-hmm.
Par contre, il y a des gens qui disent que c'est justement ça, une clause grand-père. C'est les gens qui ont déjà été impliqués dans un programme, qui ont soumis leur dossier, on traite leur dossier dans ce programme-là avant de le fermer. C'est ça qu'on le fait. Mais ce que les gens demandent, c'est qu'ils pervertissent un peu le terme clause grand-père, puis ils disent les gens qui sont arrivés en 2021, qui ont travaillé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis qui pensaient un jour déposer dans le programme PEC, maintenant qu'il est fermé, voulez-vous leur donner une clause grand-père et le réouvrir pour eux? À cette question, je réponds non. Il n'avait pas soumis dans l'ancien programme. Il y a un nouveau programme qui est beaucoup plus puissant économiquement. L'ancien PEC, c'était premier arrivé, premier servi. On ne veut pas sélectionner les gens en fonction des pénuries de main-d'œuvre. On ne veut pas sélectionner les gens en fonction du manufacturier. On ne veut pas sélectionner les gens en fonction des régions. Le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, ça le dit, hein, programme de sélection des travailleurs qualifiés, nous permet de sélectionner les travailleurs qualifiés selon les régions. D'un point de vue économique, notre nouveau programme est beaucoup plus puissant, va nous permettre de répondre à la pénurie de main-d'œuvre.
Donc, si je vous entends bien, Bruno Marchand, maire de Québec, qui dit qu'il y a 13 000 citoyens présentement à Québec qui ont un emploi, qui se sont installés. Il y en a plusieurs qui ont la famille, une maison, payent des taxes municipales. Eux vont pouvoir se requalifier dans le nouveau programme.
Bien, il faut qu'ils appliquent. Je pense que la grande majorité ont appliqué dans le nouveau programme. S'ils n'ont pas appliqué, c'est le temps pour aller directement sur le site du ministère de l'Immigration, déposer leur candidature pour qu'on puisse les sélectionner, leur donner ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec, la résidence permanente. Je vois des fois dans des journaux des témoignages de personnes qui disent « Ah, je n'ai aucune chance ». Puis là, je lis leur parcours. Ce sont des gens qui travaillent des fois dans le secteur manufacturier ou dans le milieu de la santé, dans la région de Québec, qui parlent français, qui ont une qualification. C'est des superbes candidatures. Il y a des très, très, très bonnes chances qu'ils soient sélectionnés.
Mais pourquoi,
si c'est pas la semaine prochaine,
mais pourquoi,
en février ou en mars, mais encore faut-il l'appliquer?
Mais pourquoi, M. Roberge, c'est si difficile actuellement? Ça fait tant parler, on voit des cas importants, on voit de la détresse humaine, de la détresse psychologique associée à ça. Si c'est simple, efficace, c'est la meilleure chose. Il n'y a pas quelque chose qu'on a mal ficelé, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire autrement, qu'on aurait dû faire autrement. Tu sais, je me dis, si ça crée autant là, autour de nous, OK, il y a peut-être des facettes qui sont super bonnes, mais il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Même des maires de villes, de municipalités, des entrepreneurs lèvent la main.
Mais c'est parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent aussi à juste titre parce que le gouvernement fédéral refuse de renouveler des permis de travail de personnes qui sont sur le territoire québécois. Là, des gens, vous avez dit, là, qui travaillent, qui parlent français, qui paient des impôts, mettez tout ça ensemble. Parce que Ottawa a décrété que une entreprise, par exemple, de 100 employés ne pouvait pas avoir plus que 10 travailleurs étrangers temporaires. Et on dit le seuil, c'est 10 %. Donc, si une entreprise de 100 employés a 15 employés, Ottawa, il dit, il y en a 5 là, pour lesquels je ne renouvellerai pas leur permis. Et là, les gens disent, mon Dieu, je suis à risque de devoir quitter, d'être expulsé par Ottawa. Puis là, ils disent, au gouvernement québécois, vite, 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 donnez-moi la résidence permanente tout de suite. Ça presse. Sans quoi Ottawa m'expulse? Nous, ce qu'on dit d'abord, c'est Ottawa, arrêtez d'expulser le monde, renouveler les permis de ces personnes-là, laissez-nous le temps de traiter les dossiers, puis on verra au cas par cas si on est capable de leur donner la résidence permanente. Mais ce sentiment d'urgence, cette angoisse généralisée causée par le fait qu'Ottawa expulse du monde. Okay, le gouvernement québécois n'expulse personne. Soit il donne la résidence permanente, soit il la donne pas. Mais nous, on ne retire pas des permis de travail. Ça, c'est pas vrai.
D'accord. Merci beaucoup, M. Roberge, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent caucus avec la CAQ, une bonne rentrée parlementaire et une très belle course à la chefferie.
Merci, au revoir, bonne journée tout le monde.
Au plaisir de se reparler, merci. C'était Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, la francisation et l'intégration. On a parlé de son appui à Christine Fréchette et également des problèmes en immigration à l'heure actuelle. Plusieurs entreprises craignent de perdre des employés.
On en jase jusqu'à 4 heures.
On va revenir sur cette conversation avec Jean-François Roberge, avec Rémi Villemur dans quelques minutes. Excellent chroniqueur pour l'émission On en jase, excellent animateur au 99.5 Montréal. Mais Pascal, avant, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité? Je sais que dans à peu près 12 minutes, c'est le point de presse de Respect citoyen pour les travaux concernant le tramway. Oh, que ça sera pas facile de circuler en ville.
Oui, parce qu'on en parlait en début d'émission. Il y aura assurément des travaux fort importants dès le mois d'avril qui vont commencer pour le projet de tramway. Des entraves, des travaux majeurs, des changements dans la circulation. Mais ça, ça va s'extensionner jusqu'au printemps. Puis à partir du printemps, finalement, c'est juste le début. Parce que ça va s'extensionner pour plusieurs années. On attend à livrer le tramway dans au moins une dizaine d'années. Donc, le gouvernement a investi beaucoup d'argent jusqu'à maintenant. 11 millions de dollars supplémentaires qui sont investis pour offrir du mentorat aux nouveaux enseignants pour j'appelle ça les enseignants, là, excusez-moi, c'est parce que j'avais une conversation un petit peu plus tôt avec un collègue, mais ceux qui vont nous donner la signalisation des chantiers. Et eux doivent aussi se parfaire avec les nouvelles façons de faire parce que dans la ville de Québec, ça sera loin d'être facile. Je vous énumérais où est-ce qu'il y aura des entraves majeures, puis je peux vous les renommer peut-être, mais pour les secteurs à haute densification, à haute problématique dans la ville de Québec, bien, faut savoir que ce sera dans le secteur de Sainte-Foy. Hein. Les axes du chemin Quatre-Bourgeois, chemin Sainte-Foy, ça va être fermé par tronçon. Il y aura des transits, ça va se faire par versant nord, Hochelaga. C'est là qu'on va devoir devenir les enseignants de la route. Mais ça sera pas facile parce que les automobilistes auront de la colère, les automobilistes auront des retards, ils auront également beaucoup de trafic à encaisser. Et ça, ça va être encore plus complexe dans les axes qui étaient fort pratiqués et qui était déjà congestionné. Quand tu en parles, là, Jeff, de tout ce qui s'en vient en termes de chantier, autant dans les Moiloux que dans la Basse-Ville, Saint-Roch et tout ça, au 88-971-1021, les gens nous disent déjà à quel point c'était complexe et qu'on avait des changements de voie dans les dernières années. Puis ça sera loin d'être facile. On vient de parler au ministre Roberge. Parlons d'un autre ministre de la CAQ, Jonathan Julien, qui est dans l'actualité parce qu'on parle de troisième lien. Donc, le ministre des Transports se retrouve un peu entre les vieilleries de la CAQ, soit les dossiers qu'on était en train de travailler qui étaient en cours. Donc, on a évoqué une fourchette de prix entre 7 à 11 milliards de dollars. Une fourchette de prix qui est assez grosse, merci, pour le troisième lien. Il dit qu'il écoute les gens qui se présentent à la chefferie parce que c'est pas tout le monde qui est clairement bien tranché sur la chose. Pour Christine Fréchette, bon, on est moins pressé que pour Bernard Drainville de poursuivre avec le projet. Mais en ce moment, le ministre qui est délégué à tout ça, bien, va de l'avant, puis il dit, on continue avec notre projet de troisième lien. C'est quelque chose qu'on avait reparlé avec M. Legault. Alors, on est encore là-dedans. Du côté des États-Unis, si je termine avec ça, on va aller avec une nouvelle dont on a peu parlé aujourd'hui. Vas-y. Parce qu'on est plus concentré sur ce qui se passe autour de nous, moi, et on comprend. Mais je sais pas si tu te souviens, Mark Ruffalo, qui est un acteur bien connu sur le tapis rouge aux Golden Globes, avait...
Disney, il a dit « ciao bye », je pense. Hein?
Il avait critiqué ouvertement Donald Trump. Et là, ben, la rumeur se veut que peut-être il a été renvoyé par Disney justement parce qu'il a été trop verbomoteur sur ce qu'il pensait de Donald Trump. Mais bon, c'est une rumeur actuellement. Ça circule. Peut-être que c'est la fin du personnage de Hulk avec Mark Ruffalo. On suit ça. Mais ce serait encore un genre de problématique au niveau de la communication, au niveau de la liberté d'expression qui se passera aux États-Unis.
À suivre ce dossier. Chose certaine, jamais on ne va couper son micro. Jamais on ne va le baïonner. C'est Rémi Villemur, animateur du 99.5 à Montréal, qui est avec nous. Rémi, comment vas-tu?
Ah, ça va bien, vous deux.
Ça va super bien. Rémi, est-ce que tu as entendu notre entrevue avec le ministre Roberge?
J'ai entendu la fin.
La fin? Un petit peu la fin. Excellent. Qu'est-ce que tu penses de cet appui-là du ministre Roberge à Christine Fréchette? Moi, on dirait que les dés sont joués. Tous les gros ténors de la CAQ sont derrière Christine Fréchette. Puis là, je lui ai posé la question, l'aile bleue, l'aile rouge, il n'y a pas ça au sein de la CAQ. Mais il y a quand même deux grands nationalistes, Mathieu Lacombe et Jean-François Roberge, qui, à ma grande surprise, appuient Christine Fréchette.
Ben oui, puis les plus cyniques au début de la course disaient ça va être l'éclatement de ce parti-là, l'aile bleue, L'aile rouge vont se rencontrer, ça va. Et là, ben, on a l'impression qu'il n'y en aura pas vraiment, en réalité, de conflit entre ces deux ailes-là, puisqu'il y a des gens. Et en passant, Mathieu Lacombe, c'est un souverainiste, là.
Ben oui. Ben,
très
Jean-François
souverainiste.
Roberge aussi, puis Simon Jolin
Oui,
Barrette
oui, oui,
aussi.
Mais tu sais, Mathieu Lacombe, là, il fallait l'écouter la semaine dernière quand il présentait le plan en culture. Il a fait des
T'as
envolées
raison.
patriotiques là, sur les ondes à Montréal. Donc là, maintenant qu'il s'en va du côté de Christine Fréchette, maintenant que Jean-François Roberge aussi s'en va du côté de Christine Fréchette, ben là, on se dit, bon, soit ces gens-là ont décidé de faire passer le pouvoir, la limousine, tu sais, c'est confortable en maudit, le cuir d'une limousine, là, okay, avant leurs principes, soit ils ont décidé de faire ça. OK, mais ça serait leur prêter des mauvaises intentions, puis j'irai pas là. Mais c'est quand même une option qui est sur la table. Soit, et c'est plus plausible, et c'est plus respectueux, ils ont décidé que ben, finalement, ils allaient être capables, probablement à l'intérieur d'un parti dirigé par Christine Fréchette, de faire valoir ces principes-là. Sauf que Christine Fréchette, tous ceux qui ont suivi un peu les activités à l'interne à la CAQ se rappellent que lorsqu'elle est arrivée et qu'on lui a donné les rênes du dossier de l'immigration, on n'a plus à peu près parlé jamais d'immigration de la même façon à la CAQ. Donc, c'est peut-être ça aussi la CAQ de demain. Et donc, il y a peut-être quelque chose de pire finalement que l'éclatement du parti autour de certains principes. Il y a peut-être simplement le fait que ce parti-là va se peinturer en rouge et va décider, et parce qu'ils ont bien compris que le PQ. Et malgré les années qui passent, malgré les bourdes de Saint-Pierre Plamondon, toujours pressenties pour gagner, bien, ils ont décidé de jouer plus clairement leur jeu. Donc, on se dit, si on a un parti qui est bleu, on est mieux d'être rouge, parce que l'histoire du Québec est fondée autour de cet axe-là. Bon, il y a le Parti libéral du Québec, sauf que le chef n'est même pas élu, n'a pas accès au salon bleu. En fait, il faut dire le salon rouge maintenant. Il ne peut plus poser de questions. Donc, finalement, on va prendre sa place. On va prendre sa place. Donc, moi, c'est ça le destin que je vois à la CAQ. Hein? Et ça fait mal paraître des Jean-François Roberge et des Mathieu Lacombe, mais on revient à un axe plus naturel quand vient le temps de comprendre le politique au Québec, rouge, bleu, fédéraliste, souverainiste, et que là, j'en entends plus un, parce que ça passe plus, là, me dire qu'ils sont pas fédéralistes. Ils sont. Regardez, vous êtes pour ou contre le référendum? Vous êtes pour ou contre la souveraineté? Vous êtes pour la souveraineté, vous êtes souverainiste. Vous êtes contre la souveraineté, vous êtes fédéraliste. Arrêtez de niaiser, là.
On a un constat peut-être qui va te rejoindre, mais on aime ça les avoir en entrevue là, en ce moment, les politiciens et tout ça. Au niveau de la CAQ, ça devient un petit peu plus difficile ces temps-ci parce qu'en pleine course à la chefferie, c'est comme si, bon, ils se doivent d'avoir un pas de recul parce que c'est pas une course interpartie. On va pas commencer à s'entrechoquer comme on voit quand finalement on est dans une période électorale. Il faut faire attention, ce sont nos collègues et tout ça. Mais il n'y a rien qui ressort. Moi, mon constat, c'est qu'il n'y a rien, mais rien qui est ressorti du ministre Roberge. Beau poser des questions, beau savoir que sur certaines choses, il ne pourra pas répondre, donc je ne veux pas aller trop creux, pas trop loin. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir un peu de chair autour de l'os? On peut-tu comprendre ce qui arrime dans leur propre tête? Une coalition, ils ont droit à leur opinion habituellement, encore plus que dans n'importe quel parti. J'ai trouvé qu'on a perdu du temps, puis je m'excuse pas de le dire.
Oui, bien, attends. On court tous après, dans le milieu des médias, après cette entrevue-là, pour ensuite, après à peu près, tous la regretter, puisqu'on n'a pas donné finalement un très bon show. Ils veulent pas danser. Donc, ils viennent en entrevue pour dire, je refuse pas de venir en entrevue, mais ils viennent pour à peu près rien dire. C'est plus une coalition, la CAQ, là. Si c'était une coalition, les souverainistes diraient, moi, je vote oui au prochain référendum, mais je préfère rester à la CAQ. C'est plus une coalition.
Bon, ben, on a le
C'est un
même
parti
constat.
fédéraliste. C'est un parti fédéraliste. Là, à un moment donné, on ne peut pas réinventer le truc, là. T'es pour ou t'es contre, c'est aussi simple que ça. Et je sais que ça leur fait mal à la gorge d'avaler cette couleuvre-là, mais c'est eux qui décident de la mettre dans leur bouche, la couleuvre.
Mais je suis tellement d'accord avec toi parce que hier, on a eu en entrevue Bernard Drainville et je disais à
Oh.
Bernard Drainville, hey, vous avez pas eu cet élan, justement, patriotique-là, nationaliste, souverainiste, quand Mark Carney a complètement torpillé l'histoire. Le combat, la guerre sur les plaines d'Abraham entre les Anglais et les Français. Moi, j'ai ressorti mon drapeau du Québec, puis je me l'ai mis sur le dos, puis j'ai crié à mon nationaliste et il m'a répondu non, tant mieux pour vous. Hey, Bernard Drainville, qui était dans le PQ, ça n'a pas de sens de se dénaturer de même, là.
Non, 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 mais c'est lamentable, d'autant plus qu'il a tellement d'expérience, Bernard Drainville. Il a plus d'expérience que nous trois en radio, il a
Oui.
plus d'expérience que nous trois en politique. À ma connaissance, on n'en a pas ici. Donc, il n'y a pas d'excuse, il n'est pas capable de tourner en rond mieux que ça. Tout le monde en parle, c'était pathétique la façon qu'il a répondu à la question. Il s'est mis à parler d'un autre sujet. Et là, j'espérais vraiment que quelqu'un autour de la table lui dise, t'étais pas en train de répondre à la question,
Non,
là.
c'est ça.
Oui, mais nos réalisations, tatati, tatata. Donc, en réalité, là, on affiche clairement nos couleurs, même l'aile bleue. Là, je parle même pas des bleus qui sont allés chez les rouges, je parle des bleus qui restent bleus. Même eux autres sont pas capables de prendre une belle passe à la palette et dire, on va faire un petit peu de millage avec, parce qu'ils savent que c'est pas le Saint-Pierre Plamondon qui joue ce rôle-là, que si on est deux à le jouer, on risque de moins bien paraître. Donc, on est mieux de pas le jouer. Mais en ne le jouant pas, on fait quoi? On est fédéraliste.
Parce que moi, je me dis, quelqu'un peut changer d'avis, quelqu'un peut avoir une nouvelle vision des choses, avoir un caractère opportuniste, etc. Mais le point en ce moment, c'est que je comprends là, qu'on est dans une course à la chefferie, ça divise, c'est complexe, on ne veut pas attacher plus le parti, mais on est en train de ne rien donner à la population. On n'est pas en train de voter, nous, ce sont les membres qui vont voter au bout du compte. Mais la réputation du politicien est en train de se forger, qu'ils le veulent ou non. Et ça peut nuire à la suite des choses, peu importe qui sera élu. D'avoir rien, là, autant pas de chair autour de l'os. On parlait d'immigration avec Jean-François Roberge, puis c'est comme s'il y avait aucune faille dans leur projet actuellement, dans leur façon de réagir puis d'agir avec le PEC quand tout le monde crie qu'il y a des problématiques. Moi, je me demande comment est-ce qu'on va en sortir ensuite de cette crise-là, parce qu'au moment où on va devoir parler d'enjeux, si on n'a pas été loquace puis on n'a pas été capable d'avoir des discussions là-dessus auparavant, comment est-ce qu'on va se défendre finalement d'en avoir maintenant? Ça va nous crier au visage que c'était de l'opportunisme puis que là, on travaille pour avoir des gens qui vont voter pour nous. On en a perdu beaucoup.
Alors, on en a perdu beaucoup. Puis pendant ce temps-là, Christine Fréchette, on ne sait même pas c'est qui. C'est sincèrement, là, on ne sait pas du tout c'est qui. Là. Moi, je compare ça quasiment à Sophie Brochu là, qui se ramasse dans n'importe quel sondage sur la chefferie de n'importe quel parti. Puis on dit, mais c'est qui Sophie Brochu, à part le monde qui ont travaillé avec à Hydro-Québec? Christine Fréchette n'a quasiment jamais donné de longue entrevue. On ne sait pas d'où elle vient. On sait qu'elle est studieuse puis qu'elle est sérieuse. Mais c'est quoi sa personnalité? C'est quoi ses idées? C'est quoi son projet de société? Es-tu bleu, es-tu rouge? Elle a fait juste avancer comme ça pendant que tout le monde a l'air un peu fou autour d'elle. Cette course-là avait l'air de tout annoncer, tu sais, en matière d'excitation. Je me disais, quelle bonne chose ça va être. Puis là, on commence à être un petit peu. On va devoir réduire nos attentes.
Oui, exactement. On a payé un billet à 200$ pour le Canadien de Montréal, puis le Canadien se fait blanchir, puis on est déçu. Hey Rémi, je sais que ton temps est compté. Fait que rapidement, en terminant, est-ce que tu es d'avis de notre chroniqueur Victor Henriquez qui nous avait expliqué ça avant les fêtes, Pascal, en disant, je trouve que la CAQ prend le mauvais tournant en prenant le fédéralisme parce que la CAQ, à son maximum, c'était lorsque le PQ était à son minimum. Donc, devrait continuer à jouer sur cette table-là. Moi, j'étais d'avis avec Victor Henriquez et je trouvais ça très intéressant comme analyse. T'en penses quoi?
C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a vraiment il y a des bons arguments des deux côtés. Mais effectivement, la CAQ était peut-être une étoile filante, hein? Et François Legault était peut-être aussi une étoile filante parce qu'on s'est demandé, à la suite de son départ, qui, à l'interne, pouvait incarner ce style-là, tu sais, le style très paternel, je ne veux pas dire paternaliste, très proche du monde, un embrasseux de bébé. Puis là, on s'est dit, il y a Bernard Drainville qui incarne ça. Ouais. Puis Bernard Drainville, on l'a vu en entrevue dimanche soir, tout le monde en parle, puis on s'est dit, c'est un petit peu too much. Tu sais, le tutoiement, revenir au vouvoiement, les hey, moi là, les hey, les espèces de petites manières comme ça.
On est Rémi, t'as pas compris, Rémi. J'imite Bernard. Rémi.
Ah oui, c'est ça, t'as pas compris. Non, mais tu sais, il a l'air de connaître tout le monde, mais on dirait que c'est pas tout le monde qui est son ami non plus. Hein? Donc, on sait pas exactement s'il obtient l'effet qu'il veut. On va voir dans les prochains mois. Ça, c'est ce qui fait en sorte que ça demeure une belle course. Ouais. C'est la fin. On a tous envie de voir qu'est-ce qui va se passer à la fin.
Rémi Villemur, tu sais comment on adore parler avec toi et on parle avec toi chaque mardi et jeudi dans l'émission On en jase aux alentours de 13h, 13h10. Désolé, on t'a retardé un petit peu aujourd'hui à cause du ministre Roberge. On se reparle jeudi, mon ami. Je te souhaite une bonne semaine sur les ondes du 99.5 Montréal.
Bye bye à vous deux. Bon après-midi.
Salut! Rémi Villemur, excellent animateur à Montréal. On a la chance de faire des chroniques deux fois par semaine avec lui. Pascal, je te fais écouter Luc Provençal sur Bernard Drainville ce matin lorsqu'il lui a confirmé son appui. Ah, il ne part pas. Je vais régler le tout. On va l'entendre après la pause.
Pendant que tu fais ça, je peux te jaser un peu d'une chose, par contre.
Ah, oui,
parce que je sais que Bernard Drainville laisse personne indifférent. Hein? Puis là, ce n'est pas un discours pro M. Drainville, ce n'est pas un discours contre Mme Fréchette, pas du tout. Il y a une chose, par exemple, que la politique, des fois, je trouve vient complexifier la chose sur l'opinion personnelle qu'on peut avoir de quelqu'un. Pour avoir travaillé avec Bernard Drainville, quand il était au micro avec Éric Duhaime sur un poste de radio ici à Québec, où j'ai fait la majorité à date de mes années en radio, Bernard Drainville avait une de ses rigueurs professionnelles là, qui était peu vue. Et là, je ne parle pas juste à la radio. Et en politique, quand il en faisait du côté de Montréal, aux alentours de Montréal, là, il était reconnu pour ça. Quand il dit « Moi, je vais arriver avec des dossiers si je peux les réaliser. Mm-hmm. Je vais arriver avec sur des dossiers avec rigueur puis je vais m'assurer qu'on soit capable de le faire. » J'ai tendance à le croire là-dessus. Puis, parce que je l'ai vécu et je l'ai vu de mes propres yeux. Le hic étant, effectivement, que par le contenant actuel et non le contenu de Bernard Drainville, il y a des gens qui ne l'aiment pas, il y a des gens qui l'apprécient, en politique, hors politique. Il a une façon de faire qui est assez bulldozer. Quand il s'en va quelque part, il s'en va quelque part. Puis ça, je pense que ça peut lui nuire autant que la façon d'avoir l'air humain, bon vivant, qui est un petit peu trop poussé à quelque part. La chose que je lui donne, par contre, c'est sa rigueur. Puis pour Mme Fréchette, quand on parle de notoriété qui est pas atteinte au sein du public avec les propos de Rémi Villemur en ce moment, il a raison. Ça veut pas dire que, par contre, ça enlève son CV. Puis c'est peut-être à nous aussi d'aller faire l'exercice, si une personne n'est pas connue en politique, n'a pas de notoriété, d'aller voir où elle est passée auparavant, parce qu'on pourrait échapper des candidats fort intéressants.
En effet. Après la pause, justement, on vient de parler beaucoup de Christine Fréchette. On va parler de Bernard Drainville. Et je te fais entendre justement ce que Luc Provençal a dit à son sujet ce matin.
Pour moi, Bernard est l'homme de la situation. C'est un gars de centre-droite. Et on a besoin d'un gars comme Bernard Drainville pour aller plus loin.
On va parler avec Étienne-Alexandre Beauregard après la pause. Étienne-Alexandre est un jeune penseur conservatiste et il écrivait à l'époque les discours pour François Legault. On avait parlé avec lui justement dans notre émission spéciale sur le départ de François Legault. Donc, Étienne-Alexandre est bien placé pour nous dire « Bernard Drainville, c'est un gars de droite ou c'est pas un gars de droite? » C'est la question qu'on va répondre après cette
Parce
courte
pause.
Parce
que lui, il ne répond pas. Imagine où on est rendu.
Il va nous répondre à ça après la pause. À l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. 102.1. Ben oui, c'est nous autres sur l'émission On en jase de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous venez de l'entendre avec Jeff Fortin et Pascal CV. À la météo, ben gardez vos grosses mitaines, vos tucs, Pascal.
Oui, puis certainement le manteau d'hiver.
On que oui, hier, les bottes
de
laine.
Je revenais de la Côte-Nord, puis je me suis dit, hey, cette année, c'est un vrai hiver. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un hiver qui commence dans le mois qu'on connaît, soit novembre-ish, là, et qui perdure jusqu'à, ah non, je vrai. Pense, mars. C'est un vrai.
C'est vrai, je regardais le banc de neige dans le parking. C'est un vrai hiver.
C'est un vrai.
Un vrai, un vrai. Moins 24 avec le facteur de refroidissement et en lien présentement. Moins 14, possibilité d'averse de neige aujourd'hui. Moins 13, généralement ensoleillé pour demain. Jeudi, moins 14, ensoleillé. Évidemment, on va suivre l'émission. C'est le retour de Gravel avec Denis, Audrey et Véro. Il y a Marceau le soir aussi avec Gabriel Hardy à 18h. Et par la suite, on reprend demain matin avec Marceau le matin. 418-971-101 pour réagir avec nous. Vous nous faites tellement rire.
Oui.
Pascal.
J'aimerais ça vous avoir en nombre des fois. Tu sais, avoir un genre de petit bouton spécial qui lit certains commentaires au moment opportun.
C'est ça.
Du genre.
Bonjour. Juste un petit mot sur Bernard Drainville. Il impose le vouvoiement dans les écoles et il tutoie tout le monde. Ça en dit beaucoup sur le personnage. Un mononcle dans un gouvernement de mononcle. J'ai trouvé ça très drôle. Tu sais que je suis devenu l'ami de Bernard hier. Il m'a appelé Jean-François. Il a dit « Madame Antonine, Monsieur Mathias ». Donc, c'était moi l'ami de Bernard.
Oui. Ben là, c'est sûr qu'en ayant lu l'intégrale de ce texto-là, ça se peut que non. mais ça fait partie de la politique. Puis on en parlait. Des fois, malheureusement, ton image publique ou ce qui est perçu par quelqu'un, ça ne sera pas nécessairement ce que tu es dans ta vie privée. Mais pour ça, il faut réfléchir. Puis je pense que M. Drainville, ça sera certainement son cheval de bataille pour la suite.
En effet, il nous avoue hier qu'il faisait des efforts pour tenter de vouvoyer les gens. Pour parler de Bernard Drainville et de son positionnement économique. On va rejoindre immédiatement Étienne-Alexandre Beauregard, qui est intellectuel de la nouvelle génération nationale conservatrice en pleine ascension et qui est un ancien rédacteur de discours de François Legault. Étienne-Alexandre, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi, Jeff?
Ça va super bien. Étienne-Alexandre, Luc Provençal a présenté Bernard Drainville comme étant quelqu'un de centre-droit. Alex Boissonneau, lorsqu'il s'est présenté dans Arthabasca cet été, a dit « Je suis maintenant de centre-droit. » Je suis-tu le seul à pas croire qu'ils sont de centre-droit?
Oui, ça a l'air effectivement d'être une étiquette que tout le monde se revendique ces jours-ci. Hein. Puis je sais que, disons, dans l'aile droite du spectre politique au Québec, par exemple, au Parti conservateur du Québec, ben, on a vu le message d'Éric Duhem à Bernard Brinville qui disait là, coudon, tout le monde veut marcher sur mes plates-bandes. Mais moi, je pense quand même que quand on regarde la droite québécoise, oui, il y a un aspect qui est plus économique, qu'on le sait qui est plus présent dans la région de Québec, que quelqu'un comme Éric Duhem incarne tout à fait puis depuis très longtemps. Il y a le mérite de la constance là-dessus. Mais il y a aussi un élément qui est plus identitaire, puis qui vient justement de cet aspect-là. Bon, moi, je me décris comme un nationaliste conservateur, c'est pas mal ça aussi, de dire que oui, il y a une identité qui existe au Québec, qui est marquée par une langue, par des valeurs, par un rapport au monde, et que ça doit être préservé. Fait qu'on, quand on a des débats sur les questions, justement, les questions de la langue, sur la question de l'immigration, sur la question de la laïcité, dernièrement aussi, il y a ça qui joue. Puis je pense que quelqu'un comme Bernard Drinville, il a quand même porté la Charte des valeurs québécoises, il y a quand même une espèce de constance à ce niveau-là. Fait que, tu sais, de voir est-ce qu'il s'inscrit, disons, dans la famille générale du centre-droit québécois, ne serait-ce que de par sa posture identitaire, je pense que c'est quelque chose qui se défend, là, absolument.
Mais la question qui tue, ça sert à quoi en ce moment, admettons, là, de définir ce qu'est Bernard Drinville? Est-ce que vraiment ça joue sur sa candidature à la chefferie du parti? Et là, je ne m'attaque pas à toi du tout, là. Je me questionne. Est-ce que vraiment ça change les choses en ce moment qu'on se penche là-dessus? Parce que, mon Dieu, on n'aura pas de réponse.
Ben, je pense que aussi ça fait partie du pitch qu'un candidat veut faire aux membres, parce que on s'entend une course à la direction. À la différence d'une élection générale, il y a un corps électoral qui est très restreint, c'est-à-dire qu'il y a juste les membres de la coalition de Québec. Bon, en ce moment, je pense qu'ils sont quelque chose comme 15 000. Sans doute qu'il va y avoir des cartes qui vont se signer jusqu'au mois d'avril, mais c'est eux qui veulent voter. Puis à ce moment-là, la raison pour laquelle les candidats disent ça, d'ailleurs, si vous avez écouté le discours de présentation de Christine Fréchette la semaine dernière, elle aussi se disait de centre-droit. On peut en reparler, je crois, peut-être un peu moins, mais sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils disent ça, c'est parce que les membres, eux, ont leur idée de ce que devrait être leur parti. T'sais, ils disent, bon, moi, si je m'implique à la CAQ depuis 1, 2, 3, 5, 10 ans, c'est parce que j'ai cette vision-là pour le Québec. Puis quand je me cherche un nouveau chef, mais à ce moment-là, qui est-ce que je veux pour représenter cette vision-là? Fait que je pense que c'est pas un accident si les candidats vont chercher de se définir, à mettre des étiquettes aussi, qui sont celles que, au final, les membres du parti recherchent.
Étienne Alexandre, tu viens de piquer ma curiosité. Tu m'as convaincu que Bernard Drinville, par son côté nationaliste, laïcité, tendait un petit peu plus vers la droite. Mais là, tu dis, bon, après, si on parlait de Christine Fréchette, j'ai mes doutes là-dessus. Quels sont tes doutes?
Bien, c'est-à-dire qu'on en a parlé quand même un peu dans les médias, mais sur la question de la laïcité, typiquement, alors que Bernard Drinville portait la Charte des valeurs québécoises au gouvernement Marois, Mme Fréchette a quitté le gouvernement Marois à cause de la dite Charte des valeurs. Fait que c'est clair que sur la question de l'identité, il y a une différence entre les deux. Puis quand on regarde notamment son passage comme ministre de l'Immigration, on a vu que là, tout d'un coup, la politique est devenue moins restrictive qu'elle l'a été par le passé. Fait que probablement que les membres de la CAQ sont soucieux un peu de la question identitaire. Ben, c'est pour ça qu'ils n'iront pas tous derrière Christine Fréchette, puis il y en a peut-être qui vont lorgner du côté de Bernard Drinville si c'est ça leur priorité, je pense. Puis après, même sur la question de la droite, on s'entend, puis là, je mets mon chapeau d'analyste plus que mon chapeau d'ancien conseiller politique, mais tu sais, le gouvernement de la CAQ, oui, a été assez centriste, mais est-ce que c'est vraiment droite au sens où quelqu'un comme M. Duhem l'entend? Pas forcément, tu sais, je veux dire, bon, on peut parler des déficits, bon, au niveau des taux d'imposition, effectivement, ça a été réduit, mais par exemple, sur le tout l'aspect des subventions aux entreprises, ben, que Mme Fréchette a endossé en étant ministre, ça, il y a des gens qui sont plus à droite, qu'on pourrait dire plus libertariens au Québec, c'est pas vraiment leur tasse de thé non plus. Fait qu'il faut voir comment ça se place, mais c'est sûr que c'est peut-être un peu plus difficile de dire ça.
Donc, si je comprends bien, la CAQ est un petit peu plus à droite que ce qu'on veut laisser transparaître autant dans les journaux que surtout chez le Parti conservateur d'Éric Duhem. C'est ce que tu es en train de nous dire.
Oui, puis je pense que les membres le sont, vraiment. En tout cas, parce que j'ai quand même une petite connaissance. Oui,
bien c'est ça. Ayant été bien impliqué dans la CAQ.
Oui, exactement. Puis en tout cas, les membres, c'est sûr qu'on peut dire qu'ils étaient là dans l'opposition, qui ont été au gouvernement, puis qui veulent continuer de bâtir le parti pour la suite. Je pense que c'est des gens qui, eux, justement, se définissent comme des gens de centre-droit, comme des nationalistes de centre-droit. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu une ruée vers cette étiquette-là. Là. Puis on pourrait dire plus généralement, parce que tu parlais d'Alex Boissonneau avant, toute la question, je pense qu'au Québec, en général, maintenant, on a un peu un désenchantement par rapport à certaines politiques économiques qu'on dit qui sont plus à gauche. Et quand on regarde, par exemple, le système de santé, qu'on se dit, OK, mais on n'arrête pas de mettre de l'argent, puis on a l'impression que ça change rien. Quand on regarde, justement, les déficits, qu'on se dit, ah, ben, on peut pas continuer comme ça. Fait que je comprends pourquoi, au sens large, on essaye d'aller dans ce sens-là un peu partout. Tu sais, même le Parti québécois, ils ont eu leur congrès la fin de semaine passée. Je sais pas si vous avez vu passer l'article, comme quoi, finalement, ils ont refusé de se positionner contre un futur gazoduc au Québec. Ça, typiquement, pour le Parti québécois, c'est pas quelque chose qu'on attendrait. Fait que je pense qu'il y a peut-être un espèce de retour de balancier aussi où on voit qu'il y a une masse critique de Québécois, en fait, qui se disent là, on peut pas toujours continuer, on a été pas mal dans un sens. Est-ce qu'on pourrait retourner de l'autre pour essayer de régler certains problèmes que nos excès, peut-être du côté gauche, ont causé, ça?
C'est intéressant de t'entendre là-dessus, notamment parce que, bon, Jean-François l'a dit dans ta description, tu as écrit des discours politiques, notamment pour ce parti-là. Est-ce que tu retrouves ton parti? Est-ce que tu vois encore la même chose, la même lueur, la même identité, la même façon de façonner les prises de parole qu'auparavant?
Si tu parles des discours, c'est sûr que c'est plus moi qui les fais. Mais après, je pense que sur les fondamentaux, les gens sont quand même en accord. Puis d'ailleurs, moi, si j'ai peut-être une critique à formuler sur la course, comment elle commence, c'est de dire qu'on voit pas encore vraiment les différences entre les deux candidats. C'est-à-dire que on dirait qu'il y a un peu un accord tacite, ou du moins les deux candidats ont l'impression que ce que les membres veulent, c'est effectivement quelqu'un qui va se positionner à la fois nationaliste et plus à droite sur l'économie. Mais on attend en fait de voir ça va être quoi la différence. Puis on voyait, je sais pas si vous avez entendu, quand les deux candidats sont allés à Patrick Lagacé, mais ils demandaient, bon, c'est quoi les politiques que vous allez mettre de l'avant, ou si vous arrivez premier ministre, c'est quoi la première chose que vous allez faire. Puis les deux, pour le moment, voulaient pas trop se mouiller en disant, ah, ben, je consulte, je suis en train de faire mon programme. Puis bon, je peux comprendre que les deux ont peut-être été pris de court par la décision du premier ministre d'équiter, puis qu'il y avait une pression pour se lancer. Mais c'est sûr, moi, je pense en tout cas que les membres, ils vont s'attendre un peu à ce qu'il y ait du débat, à ce qu'il y ait des clivages, qu'il y ait de la confrontation pour qu'on sache, OK, mais on vote pour qui au final, parce qu'on veut pas deux personnes qui présentent la même chose. Au final, il faut que ça soit aussi une confrontation d'idées, je pense.
Étienne-Alexandre Beauregard, ancien rédacteur des discours de François Legault, jeune penseur de la droite conservatrice. Merci beaucoup pour ton temps passé aujourd'hui avec nous. Puis, si ça te dérange pas, je vais te lâcher un coup de fil une fois de temps en temps pour commenter cette course-là. À la CAQ, je trouve que tu es bien placé pour nous parler de ce qui se passe à l'interne.
Ça me fait toujours plaisir de vous parler.
Étienne-Alexandre, un grand merci.
Merci à vous.
Salut, bonne fin de journée. Étienne-Alexandre Beauregard, un jeune de 24 ans que j'adore et ses idées sont très claires. Il explique très bien justement ce qui se passe au sein de la CAQ. Donc, c'est sûr qu'on va lui refaire signe Pascal CV, il n'y a pas de doute. Pascal, là, je me peux plus. On fait une pause, puis après ça, je me peux plus. Faut que je te mette à jour sur le Canadien de Montréal.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon
c'est
absence?
C'est bon?
T'as retrouvé ta folie, ta lueur, ta fibre?
Ah, le Canadien est en difficulté, Pascal. Je te parle de ceci après cette courte pause à On en jase sur Boulevard Saint-Denis.
Actifs et des valeurs nutritives se rapportent aussi pouces préparés selon la formule standard.
Le midi, On en jase à Boulevard Saint-Denis.
Émission en jase de midi à 14h qui tire à sa fin. Les 13h54, le retour de Gravel va suivre. Deux entrevues très intéressantes. Alex Leblond, Pascal, planificateur financier, qui va venir refaire l'histoire de Vincent Lacroix, les fraudes qu'il y a eu avec son entreprise. Donc, c'est à surveiller dans le retour. Et Mathias Surcotte va être de retour de l'Hôtel de Ville. Il va avoir parlé avec un Stéphane Lachance, j'imagine. Pas de bonne humeur de ne pas avoir été informé des travaux du tramway. Pascal, je prends 40 secondes pour te dire que le Canadien de Montréal, ça va pas bien. Défaite de 4-2 à domicile contre les Sabres de Buffalo jeudi dernier. Défaite de 4-3 à Boston samedi en temps régulier. Fait que 0 point pour le Canadien. Les gens ont dit c'est de la faute du gardien de but québécois Samuel Montembeau. Il n'en arrête pas de puck.
Là, t'es-tu d'accord avec ça? Ou...
Il a connu deux mauvaises performances.
Oui, mais là, deux mauvaises performances, c'est pas parce qu'il
il
est
Il a
nul.
Pas une bonne saison présentement. C'est un des pires de la Ligue. Ben là, on va mettre Jacob Debèche ce soir. Mais contre les puissants Golden Knights de Vegas, 25 victoires, 14 revers et 12 revers en prolongation aux fusillades. Eux, ils reviennent d'une rangelée qui ont mangé 7-1 à Ottawa dimanche. Ils vont avoir le couteau entre les dents, Pascal. Ça va être un excellent match. C'est à 19h sur les ondes de RDS avec l'ami Pierre Houde. Et jeudi, Pascal, je te promets, on parle avec Stéphane Turcot. Sais-tu pourquoi?
Ouais.
Parce que c'est les gilets des Nordiques, c'est l'avalanche en Nordique au Centre Bell jeudi. Je me peux plus. Jeudi soir, si tu me cherches à 7h, je suis devant une TV avec une beers, puis je regarde ça, puis je crie « Go Nordique, go! »
Tu réponds pas, tu fais juste être concentré. Et clairement, toi, t'associes l'avalanche maintenant au Nordique. Tu vas essayer de renouveler avec ton ancien amour. Fuck les Canadiens, c'est ça que tu vas dire.
Fuck les Canadiens, on chandail des Nordiques. On veut une victoire de nos Nordiques. Le retour de Gravel, je suis à l'instant. Manquez pas le match du Canadien. On va en reparler dans Marceau le matin, demain matin. Pascal CV, ça s'est bien passé pour ton retour?
Ça s'est très bien passé à part la conversation sur le Canadien. Et là, je veux dire, vous enflammez le monde là, au 88-971-1021 à la fin de l'émission. C'est le pire des gardiens. Il est 54e au classement. Puis tu nous finis ça.
Je nous finis ça. On en parlera un peu plus en détail demain, si vous voulez bien, chers auditeurs, auditrices. Merci d'être sur les ondes de Boulevard 102. Le retour de Gravel, je suis à l'instant.
À demain.